on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bien oui, toi. C'est le midi qu'on en jase et il est précisément midi. Donc, Gilto. Gilto, Pascal, d'après toi, y a-tu un appareil? J'allais dire, tu fais ajuster ton appareil. Par exemple, je suis rempli de préjugés, moi, là.
Un peu.
Ça n'a pas de sens que j'aille penser ça. Désolé, guys. Envoyez-moi vos critiques au 418-971-1021. C'est l'émission On en jase le midi avec Jeff Fortin et Pascal CV. Vous pouvez nous écouter aussi sur la web radio via le blvd.fm et nos meilleurs moments se retrouvent sur le site web. L'application BLVD 102.1 disponible sur App Store et Google Play Store. Également twitch.tv/BLVD/FM. On a encore une fois un très bon show pour vous. Ce sera le caucus Iacarini dans quelques instants. Rémi Villemur va venir faire sa chronique à 13h. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal va venir nous parler de baisse d'exportation pour le Québec et également de gens qui quittent l'urgence. Plus de 11% des gens qui quittent l'urgence sans avoir été vus.
Après 8 heures et plus d'attente,
c'est
là,
ça.
J'ai fait ça, moi, il y a 3-4 semaines.
Sérieux? Oui, oui.
Ouais. Ouais, ouais.
Combien de temps?
Ben, c'était pas que c'était tant de temps, c'est juste que c'était la nuit. Et on s'est vraiment découragé, puis on s'est retourné vers une autre solution. Là, je veux juste dire, j'ai l'air bizarre d'aller à l'urgence pour rien, mais je vous explique rapido.
Ben oui, vas-y.
Mon fils est blessé sur du métal rouillé.
Oh, 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 oh.
Puis après, je me suis dit, il y a eu ses vaccins, il est correct. Puis après ça, j'ai vérifié, puis c'était déjà passé 24 heures. Puis non, il y avait un rappel de tétanos qu'il n'y avait pas eu. Puis là, on était vendredi soir. J'ai essayé de trouver une solution autre qu'aller à l'urgence. J'en trouvais
oublie
pas.
Ça.
Donc, je suis allée. Puis finalement, je me suis découragée. Mm-hmm. En plein milieu de la nuit, à un moment donné, j'ai quitté. Puis finalement, on a découvert une clinique de vaccination, en passant, que je savais même pas qu'il existait sur le boulevard Hamel, qui vaccine le samedi. Donc,
vous êtes allé le lendemain.
C'est grâce à notre pharmacienne qu'on a trouvé ça. Mais tout ça pour dire que je fais partie de la statistique des gens qui ont sacré leur camp.
Mais
découragé.
Dans une salle d'attente, là, on peut-tu en plus convenir qu'il n'y a rien de confortable? Si t'es là puis t'as déjà une douleur, clairement, t'es pas là parce que tu pètes le feu puis mon Dieu, t'es donc bien en forme. Là. Dans une chaise froide, si t'as la chance d'y être, où on va aller te voir après 2-3 heures, où des fois il y a un environnement un peu hostile, des gens en grande douleur, des gens en désorganisation.
Santé mentale. Vraiment.
Tu sais, ça peut être très perturbant, là.
Ben
ça,
oui.
Ça peut te rendre, toi, en détresse aussi, au-delà de ton mal. Puis à un moment donné, tu te dis, ben tant qu'à passer dans 8 heures, tant qu'à passer dans 10 heures, je vais aller prendre mon mal en patience à la maison, puis je vais voir s'il n'y a pas une autre ressource le lendemain. L'affaire, c'est que ça peut envenimer des cas. Puis l'autre affaire que je trouve super triste dans ça, puis j'ai hâte de parler avec Gabriel Giguère, Jeff, là, c'est à quel point on pourrait pas avoir un genre de ticket qui dit « ben tu vas passer approximativement dans tant de temps
».
Ça pourrait même laisser un certain lousse à des évaluateurs. T'arrives, tu te fais trier, puis si t'es pas la priorité, tu ne restes pas nécessairement dans la salle d'urgence.
Ben oui,
tu peux retourner pendant 7-8 heures, aller dormir chez toi et revenir le lendemain. Puis je me demande si ça désengorgerait pas non plus ces salles d'urgence.
C'est une très bonne question à poser à Gabriel. Je trouve que c'est une belle piste de solution.
Au moins tenter et explorer la possibilité, mais...
Est-ce qu'on ouvre également plus de télémédecine?
Tellement des solutions à annexer, oui.
Voyons voir, on va parler de ça avec Gabriel. Et on va finir l'émission avec Jimmy Pelletier, un être humain tout simplement exceptionnel. Jimmy a perdu l'usage de ses jambes et il est présentement dans un tour du monde. Oui, oui, 23 pays, 40 000 kilomètres en vélo à bras pour Adaptavie, pour leur permettre d'avoir un centre qui va justement... permettre aux personnes qui vivent avec un handicap de faire du sport, de pratiquer l'activité physique. Il avait fait le tour du Canada, j'y vais de mémoire, là, je ne me trompe pas, c'était en 2022. Et là, il fait le tour du monde. Donc, c'est vraiment exceptionnel, un être
quel
de
défi sportif
classe.
Pour une bonne cause.
Exactement. Et on se lance immédiatement, comme à l'habitude, du lundi au jeudi avec le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Le caucus Iacarini avec Antonine Iacarini. Anto, ça va bien?
Très bien. Hey, on a du stock encore, hein?
On a beaucoup de stock. Et là, il faut que tu me démêles. Mon petit cerveau comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe là avec le Québec, la loi sur la laïcité, la clause dérogatoire?
La Cour suprême.
Ouais, la Cour suprême, gouvernement du Canada qui veut pas trop parler contre la laïcité, mais qui parle contre la clause dérogatoire. Là, je comprends plus rien.
Bon. On fait un rappel des faits. On a une loi sur la laïcité qui a été votée en 2019 au Québec, projet de loi 21. Sans surprise, étant donné que ce projet de loi-là vient un peu à l'encontre de la Charte canadienne des droits, quand on l'applique strictement, ça vient en contradiction avec les droits collectifs desquels on s'est doté dans ce projet de loi-là. Le droit de religion au Québec, on considère que ce n'est pas absolu. C'est-à-dire que tu as le droit de pratiquer ta religion, mais la limite, c'est les autres, en fait. Puis c'est la laïcité du Québec, de nos institutions, etc.
L'exemple le plus frappant, c'est le port du kirpan. Ben, d'autres, on dit, tu porteras pas le kirpan ici au Québec.
En fait, puis la base, là, le consensus qui entoure le port des signes religieux, notamment, c'est sur les personnes en position d'autorité dans notre société, juges, policiers. Et la CAQ a inclus dans son projet de loi aussi les enseignants comme des personnes qui sont en position d'autorité. Mais ça, comme par exemple, si tu es enseignant, toi, tu dis, moi, c'est ma religion, c'est mon droit de pratiquer ma religion. Donc ça, c'est garanti par la Charte des droits et libertés canadienne. Donc, là, on a une contradiction entre les deux. Notre Assemblée nationale, bon, il y a un gouvernement majoritaire qui a été élu. Il y a d'ailleurs, puis ça fait pas nécessairement partie des considérations qui sont officielles, mais officieusement, il y a des sondages aussi régulièrement. Mm-hmm. Les gens appuient ce genre de mesures-là, sondage après sondage. La laïcité demeure populaire au Québec. Et il y a aussi un fossé un peu culturel entre le Québec et le reste du Canada sur ces enjeux-là. Au Canada, c'est pas du tout cette même vision. On voit les droits de religion comme étant là, quelque chose qui est inaliénable, auquel on ne touche pas nécessairement. Donc, sans surprise, ce projet de loi-là, cette loi, une fois adoptée, a été challengée devant les tribunaux. En fait, on conteste la loi. Plusieurs groupes, English Montreal School Board, Organisation mondiale Sikh du Canada, Conseil national des musulmans canadiens et un syndicat, la question des enseignants notamment, la FAE, qui considère qu'on contrevient, que c'est discriminatoire, en fait, qu'on contrevient à la Charte canadienne des droits. Donc là, on y est, parce que ça a passé plusieurs paliers, on est rendu où? À la Cour suprême. Le fédéral se mêle de cette cause-là. C'est pas eux qui contestent la loi comme telle, mais ils financent la contestation. Ça, c'est une première des choses. Et le point, en fait, hier, ils ont déposé leur mémoire. Donc, on avait leur argumentaire. Et ça se concentrait principalement sur la clause dérogatoire, pas sur la laïcité. Donc, on disait pas la laïcité, c'est mal, c'est discriminatoire, ça nous fait de la pépène.
Puis là,
ça.
C'est très stratégique, selon moi, de Mark Carney, qui a beaucoup d'appui au Québec. S'il se lance dans une guerre contre la laïcité, les appuis vont diminuer.
Probablement, mais je pense que personne n'est dupe, OK? Parce que là, le débat, c'est sur la clause dérogatoire. Quand on dépose un projet de loi qui contrevient à la Charte, le gouvernement du Québec, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout de suite invoquer la clause dérogatoire. Mm-hmm. On n'attend pas des décisions des tribunaux. On n'attend pas d'avoir une contestation. C'est ce qu'on appelle l'utilisation préventive de la clause dérogatoire. Et c'est ça qui est en cause devant la Cour suprême présentement. D'ailleurs, il y a d'autres provinces qui vont venir plaider pour le Québec, pas parce qu'ils sont d'accord avec notre loi sur la laïcité.
Juste parce qu'ils veulent garder leur clause dérogatoire aussi.
Parce que là, ce qui arrive, c'est que si on ne peut plus légiférer dans nos juridictions, dans nos différents parlements provinciaux, ben c'est pas seulement le Québec. C'est sûr que pour le Québec, c'est pratiquement une question de survie.
Oui.
Hein, quand on veut légiférer en matière de langue, notamment.
Exactement.
Quand on veut légiférer en matière de laïcité, ben il va y avoir des fois des contradictions avec la Charte canadienne. Donc, si on perd ce droit-là d'utiliser la clause dérogatoire de manière préventive, ça change le deal fédéral.
Oui, là, c'est papa fédéral qui décide de tout.
Bien, rendu là, on est extrêmement limité dans notre action. Puis la fédération, c'est un équilibre. On est à l'intérieur de la fédération. Le Québec n'a pas signé la Constitution. Donc,
En 82.
Donc, il y a toujours un peu...
La nuit des longs couteaux.
Après ça, il y a Brian Mulroney qui a essayé de nous ramener dans le Canada.
Le lac Meech, ça n'a pas marché.
Donc, on est toujours dans cette zone grise. On fait partie du Canada, il n'y a pas de question là-dessus. Mais même les gouvernements libéraux qui ne sont pas nécessairement aussi nationalistes, qui ne sont pas pro-laïcité plus qu'il faut, vont défendre jalousement ce droit d'utiliser la clause dérogatoire et de ne pas avoir le fédéral qui fait des empiétements dans les juridictions des provinces. Donc, c'est ça qui est en cause présentement. Si la Cour suprême devait décider que les provinces ne peuvent plus utiliser la clause de manière préventive, ça risque de brasser. Là.
Puis, vraiment.
L'Alberta n'aimera pas ça beaucoup non plus.
Exactement. Ben, j'allais te poser la question, ça va-tu lancer un mouvement souverainiste autant au Québec qu'en Alberta?
Ça va l'alimenter, c'est sûr. Bon, c'est sûr. Au Québec, en ce moment, on se rappelle, le PQ est premier d'un sondage pour un référendum dans un premier mandat.
C'est ça.
Déjà, le fédéral peut sentir un peu la soupe chaude.
Mais en Alberta, il y a quand même 30% de la population qui est favorable à l'heure actuelle. Donc, ils sont pas loin de balloter vers ça nous tente, nous autres aussi, d'être indépendants. Là.
Absolument. Puis, on rappelle, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef PQ, s'est allé faire un tour en Alberta la semaine passée.
Il a été très bien accueilli.
Mais c'est pas un hasard, là. On brasse un petit peu la soupe, là, ici, là, pour
Christiane nous écrit, l'Alberta et le Québec, même combat, qu'il l'eût cru.
Qu'il l'eût cru. Mais c'est ça, l'Alberta, on n'est pas dans les prétentions nationales. C'est pas une question, il n'y a pas de nation albertaine, mais on a vraiment des frustrations, des empiètements du fédéral. On a l'impression que on serait, en fait, que l'Alberta serait mieux développée, plus heureuse,
plus
finalement.
Plus profitable aussi.
Plus profitable aussi si on n'avait pas le carcan fédéral, alors qu'au Québec, il y a un aspect plus émotif, plus culturel, plus nationaliste, qui est un peu différent, mais il y a quelques intérêts en commun. Donc, l'Alberta va venir défendre cette position-là. L'Ontario aussi, d'ailleurs, il y en a d'autres provinces. C'est un nombre record d'intervenants dans cette course-là devant la Cour suprême. On est à 39 intervenants. Ça va être du solide. Pour ce qui est de Mark Carney, parce que là, tu posais la question.
Ben oui.
Bon, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Moi, je suis désolée, là.
Vas-y. Explique-moi ça.
C'est que, c'est juste l'affaire de la clause de rogatoire. Non. Ils sont allergiques à nos lois.
C'est clair.
Sur la laïcité.
Ça, c'est clair.
Ils sont allergiques à nos lois linguistiques.
Oui.
Et le fossé est énorme. Là, on s'est trouvé un petit prétexte, là. Mais dans le fond, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de défendre la Charte canadienne des droits. Pour eux, c'est comme, vous comprenez, le bon Dieu, là, ça, cette charte-là. Mm-hmm. Là. Puis c'est important, les droits individuels. Mais à un moment donné, le droit de religion... Puis il y a comme une espèce aussi de différence de vision au Canada anglais versus au Québec sur ce qu'est une religion. Comme si... Il n'y avait pas une part de choix là-dedans. Là, c'est comme si tu naissais avec ton signe religieux et tu ne pouvais rien faire. Là. Tu peux
pas
l'enlever.
Tu n'es musulman, tu n'es catholique, alors que la religion, c'est un choix.
Mais pour eux, dire à quelqu'un d'enlever son signe religieux, c'est comme faire preuve de racisme. Ils l'associent, ils le mettent à la même hauteur. C'est de l'intolérance, c'est du racisme. Alors qu'au Québec... Puis là, évidemment, il y a des différences d'opinion. Là. Moi, je vous donne la mienne.
Oui.
Après ça, il peut y avoir différentes opinions. Mais on considère que la religion, c'est quelque chose que tu peux vivre en privé.
Exactement.
Que tu n'as pas nécessairement besoin d'imposer aux autres. Puis après ça, bon, il y a toutes sortes de nuances, mais au Canada, on n'a pas cette même vision qu'au Québec.
Non, puis moi, j'ai la vision vraiment du Québec également, là, je m'en cache pas, là. J'ai la vision d'une société qui va être laïque, et d'autant plus que, bon, on était une société catholique, ça n'a pas eu juste du bon, donc on est mieux de se séparer de la religion, selon moi.
Et c'est important ce que tu dis, parce que c'est ce que les Anglos, des fois, ne comprennent pas. Puis moi, je me tue, mais je vais faire souvent des chroniques chez les anglophones, à leur expliquer. C'est que nous, on a sorti la religion.
Oui.
Puis, oui, il y a encore des gens qui sont croyants, mais très peu là, au Québec.
Oh, exactement.
Là. Et il y a une espèce de traumatisme. La religion catholique contrôlait toute notre société jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, c'est pas contre votre religion, l'espèce d'allergie que les Québécois ont. C'est contre la religion en général.
Ben oui.
Puis on est aussi une nation qui est très féministe. Bon, c'est pas parfait, là, mais si vous comparez avec les autres nations du monde, l'égalité homme-femme au Québec, c'est quand même pas si mal. Hein, quand on se compare, on se console.
Clairement.
Je pense que ça fait aussi partie de l'allergie par rapport à toutes les religions, pas seulement une en particulier. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'il y a une peur de perdre des acquis pour les femmes, puis ça aussi, ça fait partie de l'explication.
Beaucoup d'ouverture à la science aussi au Québec, que je trouve, comparativement à d'autres nations. Je pense que ça vient expliquer aussi pourquoi on n'embarque pas dans ce dogme de la religion-là. Là. Donc,
Puis d'ailleurs, tu sais, je veux pas trop bifurquer, mais la semaine passée, c'était la Journée mondiale de prévention du suicide. Puis parmi les explications pourquoi le taux de suicide est très élevé au Québec, on peut identifier la sortie complète de la religion tout à coup de notre société, une perte de repères puis de spiritualité aussi. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans, mais cela étant dit, c'est une différence culturelle importante. Donc, quand je vois le gouvernement fédéral faire semblant que c'est juste une technicalité de clause dérogatoire, c'est beaucoup plus profond.
Quand on vit des épreuves, que ce soit la maladie ou autre, quand on va questionner ces gens-là, puis surtout en Géronto, là, avec les personnes âgées, là, quand les psychologues y vont, là, ils se rendent compte que des fois, il y a un relent de la religion la fin des jours parce que la quête de sens, de comprendre pourquoi ça leur arrive, qu'est-ce qu'il va avoir après, vient raviver cette flamme religieuse-là. Puis je la trouvais super intéressante, la parenthèse, à quel point ça peut jouer psychologiquement. Puis je me demande au Canada, petite question pour toi, Antonine, est-ce qu'on y tient mordicus et on préserve et ça devient une question identitaire ou presque là, dans pan-canadien, la religion, parce qu'on veut justement pas qu'elle sorte de nos vies, donc on lui donne un genre de non, d'importance?
C'est pas la religion, c'est la liberté. C'est la liberté de religion qui est en question ici. Puis vraiment, c'est quelque chose qui voit comme étant là, intouchable, inaliénable, ce droit à la religion. Chacun vit sa religion comme il l'entend, sinon c'est comme une forme de discrimination. Mm-hmm. Okay. On n'a pas tout à fait la même vision. Notre vision ressemble plus à celle qu'on verra en France, par exemple. Puis si vous vous transportez au Royaume-Uni, vous allez voir, c'est un peu la même vision que le Canada. Et ça donne lieu à énormément d'accommodements religieux. Puis vous irez voir la question des tribunaux parallèles en
les
ce moment.
Les fameux accommodements raisonnables également.
Raisonnables entre guillemets.
C'est ça, exactement. Hey, on continue dans le Canada avec Mark Carney qui est en visite au Mexique. Moi, je dis toujours trop peu, trop tard. Ça fait depuis le 20 janvier que Donald Trump est arrivé pour être en visite au Mexique aujourd'hui, le 18 septembre. Il me semble que ça aurait dû être fait avant.
C'est un peu tard et on se comptera pas de mentir, là, on s'en va réparer des pots cassés.
Oui, hein?
Les Mexicains sont pas contents après nous autres. Je sais pas si vous êtes.
C'est Doug Ford hein, qui avait mis le feu aux poudres.
Notamment, mais Justin Trudeau aussi. C'est que dans le fond, quand Trump est revenu à la Maison-Blanche, il a commencé ses tribulations là, entourant les tarifs, la réaction canadienne, ça a été très individuel. Ça a été « OK, on va faire un accord avec les États-Unis », laissant de côté complètement le Mexique.
T'as raison.
Et ça a beaucoup insulté les Mexicains. Et surtout, les premiers tarifs, rappelons-nous, là, c'est des questions de fentanyl. Puis il y a été aussi question, tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben le problème avec la drogue, c'est pas le Canada, c'est le Mexique. Tu sais, il y a pas mal de ceux qui ont été cassés sur leur dos aussi. Donc, Mark Carney s'en va pour une courte visite de 24 heures, rencontrer la présidente mexicaine, va avoir un dîner de travail. 24 heures, ça me semble pas suffisant pour nécessairement
moi non plus
tout réparer, mais bon, c'est déjà un début. Puis effectivement, là, tu l'as dit, Doug Ford, là, qui, honnêtement, c'est ce que je retiens. Tout ça, c'est que Doug Ford, il parle beaucoup. Il ne s'attache pas toujours avec le gouvernement fédéral, ce que je respecte, là, les provinces.
Oh oui.
Mais quand il est question de politique internationale, même si je ne suis pas toujours contente contre le gouvernement fédéral, même si je suis nationaliste et que je pense que le Québec, notamment, doit parler de sa propre voix, quand il est question de relations internationales, là, il faut qu'on parle un petit peu tous de la même voix. Il faut qu'on s'entende à l'interne et qu'après, on aille faire des interventions à l'externe. Doug Ford est très cow-boy, très agressif. Je ne veux pas qu'on se couche devant un Donald Trump, mais il ne faut pas non plus prendre un bâton puis piquer constamment. Mais c'est un peu la même chose aussi avec cet impair diplomatique avec les Mexicains. Disons qu'on est en train un peu de réparer les bêtises de Doug Ford.
Puis est-ce que Donald Trump, justement, nous a mis de la pression au Canada parce qu'il a toujours ouvert plus la porte au Mexique qu'au Canada? Donc, c'est pour ça que je dis trop peu, trop tard. J'ai l'impression que le Canada aurait dû tenter de créer cette alliance-là avant.
Bien, le Canada se retrouve isolé. Hein. Quand on fait un peu le tour de la cour, on n'a pas pris beaucoup de temps pour essayer de faire une entente, en fait, de s'entendre avec le Mexique pour faire un front commun. Les Mexicains aussi ont leurs propres intérêts à défendre. Ce qui arrive dans ce temps-là, quand on est en crise, là, c'est aussi on se resserre autour de nos intérêts. Puis c'est un peu le premier réflexe et c'est dans la normalité. Quand on regarde aussi... bon, on regarde le Royaume-Uni, je m'excuse, je ris, mais le premier ministre... britannique là, qui est dans un festival de lichage de Donald Trump qui lui donne tout ce qu'il veut à peu près qui en paiera peut-être un jour le prix politique. Il y aurait eu moyen de faire, je trouve, un front commun à un moment donné.
Ouais.
Mais là, tout le monde joue un peu son jeu, chacun de son côté. Évidemment, les Mexicains ne sont pas dans la même position que le Canada non plus. Là. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas le poids face aux États-Unis, mais le Mexique aussi là, vit une très, très grande dépendance avec les États-Unis.
J'avais senti qu'ils s'entendaient un peu mieux, puis même qu'ils s'en sortait mieux, en fait, que nous dans ces discussions-là.
Il accepte beaucoup plus de choses aussi.
Il s'assoit beaucoup plus face à Donald Trump.
Ils n'ont pas le choix.
C'est,
là. C'est notamment très rapidement, quand il était question du fentanyl, là, c'est une espèce de faux prétexte pour les tarifs. C'est un vrai problème, le fentanyl, mais quand ça arrive de la bouche à Donald Trump, on est un peu sceptique. Le Mexique, très, très rapidement, là, ils ont fait toutes sortes d'affaires pour lui faire plaisir. Nous aussi, là, mais le Mexique aussi, là, très, très rapidement.
Parlant de Donald Trump et de gens qui s'assoient devant lui, Keir Starmer, premier ministre de la Grande-Bretagne, c'est l'allié faible européen.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Écoute,
il est même rendu qu'il défend le fait que Jimmy Kimmel a été congédié à côté de Donald Trump. Là, il se passe quoi avec le Royaume-Uni? Là?
Mais c'est gênant, honnêtement. Puis, encore une fois, je répète, on veut pas provoquer, on veut pas manquer de respect. Non, parce que même si on n'aime pas toujours Donald Trump, ça demeure que c'est l'institution, c'est le président. Oui. Donc, on n'a pas à le recevoir. Là, il était en voyage en Angleterre. On le reçoit comme un roi. Et on fait de la fête. On le flatte dans tous les sens, là, Donald Trump. Tu sais, il y aurait moyen de le recevoir convenablement sans être dans ce festival de flagornerie, là. Mais c'est vrai qu'avec Donald Trump, la flatterie, ça fonctionne. Donc, ça donne un résultat instantané qui peut te donner l'impression que tu es en train de faire des gains.
Il semble avoir des traits narcissiques, puis les gens ont compris, donc ils vont flatter là. Puis honnêtement, c'est grossier tellement que ça fonctionne.
Ah, il aime ça.
C'est grossier.
Il adore ça. Par contre, concrètement, qu'est-ce que ça a donné comme gain au Royaume-Uni?
Bien, ils ont des tarifs quand même. Eux, ils se vendent qu'ils sont réduits, mais ils ont des tarifs quand même. La guerre en Ukraine, la violence est plus forte que jamais. Et ça, la guerre en Ukraine, c'est un problème énormément européen, parce que si la Russie fait des gains en Ukraine, qui dit qu'elle fera pas des gains ailleurs? On a jusqu'à à penser à l'espace aérien de la Pologne qui a justement été violé par la Russie. Donc, il y a pas de gains.
Le président français, il ne critique pas ouvertement le premier ministre britannique, mais on le sent qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde sur l'approche à adopter par rapport à l'Ukraine quand il parle avec Donald Trump. Avec Donald Trump, Emmanuel Macron a une ligne plus dure, qui est quand même polie, qui est pas dans la provocation, qui est dans un certain apaisement, mais on a l'impression qu'il se couche pas à terre puis dit « Ben oui, Donald, t'as tellement raison. Puis mon Dieu, puis merci de tout ce que tu fais pour la paix dans le monde. » Parce que c'est ça là, le message que Starmer lance en ce moment. Le roi Charles III aussi a salué les efforts de paix.
La paix dans le monde. Ça n'a jamais été aussi violent en Ukraine, ça n'a jamais été aussi violent en Israël puis Gaza.
Ouais.
Je ne sais pas où on voit la paix dans le monde.
Mais non, mais c'est ça. Puis c'est pas nécessairement de la faute de Trump. Là. Non, dans son premier mandat, il n'y avait pas énormément de guerre et tout ça, mais c'est parce qu'il a dit qu'elle allait régler ça en 3 minutes et quart. Pas ça qui se passe présentement. Il veut un prix Nobel de la paix. C'est comme, on dirait qu'on est dans une comédie. Mais pour en revenir aux gains que Starmer a fait ou n'a pas fait, les tarifs sont encore en vigueur. Oui, c'est pas les plus élevés, mais c'est quand même sur des secteurs très stratégiques, notamment l'acier au Royaume-Uni. Ils ont fait aussi des ententes d'investissement croisés. Donc, le Royaume-Uni va dépenser de l'argent aux États-Unis. Les États-Unis vont en dépenser au Royaume-Uni. Mais ce ne sont pas des gains substantiels qui justifient pour l'instant de se coucher par terre et d'avoir finalement vendu son âme, ni plus ni moins.
T'es l'Angleterre vend présentement son âme aux États-Unis, ce qu'elle a refusé de vendre à l'Union européenne.
Ben, absolument. C'est ça qui est vraiment très, très étrange. Puis, tu sais, quand Mark Carney a enlevé les contre-tarifs.
Oui.
Il a dit, on est tout seul, là, les amis, là. On est tout seul à avoir des contre-tarifs. Mais c'est un peu ça aussi. C'est une fois que le Royaume-Uni se couche par terre, une fois que le Mexique et que tous nos alliés potentiels, il y a juste la Chine, finalement, qui avait vraiment des mesures de représailles contre les États-Unis. La Chine, c'est pas exactement notre allié.
Ben c'est ça. Est-ce qu'on veut s'allier à la Chine? La réponse est non. Là. Ça reste quand même un régime totalitaire. Là.
Donc, on aurait préféré s'allier, disons, au Royaume-Uni pour faire un front commun plus fort. Mais front commun, il n'y en aura point. Voilà.
Non, exactement. Antonine, je veux te faire réagir sur, avant qu'on parle des médecins, et je vous rappelle, vous êtes dans le caucus Iacarini du lundi au jeudi de 12h30 dans l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. Je veux te faire réagir sur des propos d'Étienne Grandmont en entrevue avec Maxime Larouche dans le Point de Max qui est de 10h à midi sur les ondes de Boulevard. Il parle de l'immigration, vient juste d'en parler avec justement cette contestation-là de la clause dérogatoire. Donc, je te fais entendre ce qu'Étienne Grandmont avait à dire à propos de François Legault et de Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'immigration.
Là, on s'en va dans un monde où finalement, là, les trois partis principaux, parce qu'ils ont décidé d'alimenter, par exemple, une rhétorique, le PQ puis le PCQ, une rhétorique anti-immigration, en mettant la faute de tous les problèmes du Québec, notamment en logement, en habitation, là, sur le dos des immigrants. Mais la crise du logement, elle existe depuis bien avant les immigrants. Là. Puis l'immigration n'est pas si présente que ça à Val-d'Or puis à Gaspé. Il y en a, mais pas comme à Montréal, à Québec puis à Laval, tu sais. Et pourtant, il y a des crises du logement aussi là-bas. Ouais. Fait qu'on alimente volontairement des problématiques qui n'en sont pas vraiment. Puis après ça, on se surprend que des sondages disent que les gens veulent qu'on contrôle mieux l'immigration. Je veux dire, ces élus-là, actuellement, là, je vais les nommer, là, je vais dire François Legault puis Paul Saint-Pierre Plamondon, ont des discours franchement dangereux sur l'immigration. Puis ça alimente une perception de la population que c'est ça la réalité.
Antonine, est-ce que c'est un discours franchement dangereux de François Legault et Paul Saint-Pierre Plamondon?
Je vais avoir une réponse un peu nuancée sur la question parce que bon, j'ai entendu cette semaine la sortie de Kim Thuy, qui était très émotive, cette autrice là, qu'on connaît bien, d'origine vietnamienne, issue d'une vague d'immigration vietnamienne au Québec. D'ailleurs, une communauté qu'on salue, là, qui fait partie vraiment du Québec puis qu'on adore. Elle était très heurtée par les propos sur l'immigration dans les dernières années. On sent effectivement que c'est des partis nationalistes là, qui sont pointés du doigt. C'est vrai qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Il y a une manière de dire les choses. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on peut tout dire. Il faut aborder ces sujets-là. Ça ne peut pas être un tabou, l'immigration. Non. Et je veux dire, mathématiquement, c'est vrai que si on a une crise du logement et qu'on a 30 000 demandeurs d'asile par année plus 55 000 immigrants permanents qui arrivent par année, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même regarder cet enjeu-là rationnellement et se dire qu'on a un enjeu. Après ça, on a une crise de services publics aussi en ce moment. On manque de place en garderie, on attend très longtemps à l'urgence. C'est pas de la faute des immigrants. C'est notre faute si on a un système tout croche, là. Soyons bien clairs. C'est
qu'on les accueille et qu'on les encadre pas comme il se doit puis qu'on leur permet pas justement de participer à un système qui est rodé. Mais il n'est même pas rodé pour nous.
Mais en fait, c'est ça. Moi, je n'ai pas entendu personne dire ça, c'est de la faute des immigrants. C'est juste que c'est un défi. On a un défi démographique
mais
en ce moment.
Mais il y a des gens dans la population qui pensent que c'est de la faute des immigrants.
Sûr.
C'est pour ça que c'est sensible. Mais le point est, il faut l'aborder.
Ça, c'est
justement
ce qu'on appelle du dog whistle. C'est-à-dire que tu ne dis pas que c'est de la faute des immigrants, mais tu fais des petits clins d'œil aux gens qui pensent que c'est de la faute des immigrants. Mais là, rendu là, je veux dire, d'avoir des débats rationnels sur c'est quoi notre capacité d'accueil, finalement. Puis, en passant, c'est vrai que dans les années 90, on disait que les immigrants, ils volaient les jobs. Puis, ça serait facile maintenant de dire les immigrants, ils volent les logements. Donc, il faut faire attention quand on prend la parole là-dessus. Puis, le premier ministre n'a pas toujours été bon, mais je trouve que c'est amélioré en passant. Maintenant, il dit, je parle pas contre les personnes. On veut bien les accueillir aussi, mais on a un enjeu. On reçoit trop de gens, puis les seuils d'immigration qu'on se fixe, ils sont doublés par une autre immigration absolument incontrôlée, qui est l'immigration temporaire. Ça fait des années que le gouvernement demande à Ottawa qu'on trouve des moyens de réduire le flot de demandeurs d'asile. Et il n'y a rien qui a bougé pendant des années. Ils se sont réveillés l'année passée, là, à peu près. Là, juste avant, pendant l'automne dernier, il y a eu quelques éléments qui ont été mis en place. Mais de dire que c'est un discours qui est dangereux, je trouve qu'on ajoute à la polarisation. C'est-à-dire que tu dénonces une polarisation que finalement tu alimentes toi aussi. Donc, la gauche aussi doit faire attention aux mots qu'elle utilise. Puis de dire des choses comme « on sait bien, la CAQ met tout sur le dos des immigrants ». C'est aussi exagéré que dire ben on a une crise du logement parce qu'il y a trop d'immigrants. Finalement.
En effet, des deux côtés, c'est exagéré. Je pense que Jean-François Roberge reprend bien ce dossier-là à l'heure actuelle, justement fixant des seuils mathématiques par rapport aux places en garderie, par rapport aux places dans les écoles, par rapport à la crise du logement. Je trouve que son approche est plus analytique que ce qu'on a entendu. Alors, j'étais bien content de le voir nommé à nouveau là, au niveau de l'immigration.
Oui, puis il reste encore énormément de défis en immigration dans l'année à venir. On sent aussi une plus grande ouverture du fédéral parce qu'il y avait une confrontation tellement grande avec Justin Trudeau. Mark Carney a l'air un peu moins idéologique aussi sur la question.
Ça a polarisé le dossier aussi, le fait que Justin Trudeau, je vais dire comme ça, est un apôtre du multiculturalisme et qu'au niveau du Québec, on tentait justement de rationaliser l'immigration pour faire en sorte que ça explose pas trop dans nos services publics.
On se faisait quasiment traiter de raciste quand on disait, tu sais, peut-être que c'est un peu trop en ce moment. T'sais. Non, c'est pas du racisme de dire ça. Mais bref, je t'ai donné une très, très longue réponse parce que justement, je trouve que c'est un enjeu qui demande de la nuance.
Cette nuance-là. Et d'ailleurs, on a un auditeur qui nous écrit, c'est une des causes dans un problème multifactoriel, mais non la cause. Je pense que ça résume bien également. Je te fais écouter Christian Dubé qui a changé complètement de ton avec les médecins tout à l'heure lorsqu'il entrait au caucus des députés de la CAQ en scrum avec les journalistes.
Il reste au moins deux bonnes semaines, et c'est là que je demande, je dis clairement aux deux fédérations, la balle est dans votre camp. Nous, au gouvernement, on est rendu à la troisième proposition. Là. Puis une troisième proposition dont récemment on a fait des avancées qui sont importantes, dont vous allez pouvoir prendre connaissance. Mais là, la balle est dans le camp des fédérations de venir s'asseoir et de dire, voici ce qu'on est prêt à faire. Parce que c'est trop facile de dire, on n'est pas capable de parler parce que le projet de loi 106 est là. Et je veux juste être clair, j'ai même dit dans les discussions qui ont eu lieu au cours des derniers jours que le projet de loi 106 est bonifiable. J'ai toujours dit. Alors donc, en terminant, il reste plus que deux semaines, si les gens viennent à table, bien, à ce moment-là, on pourra avoir des discussions. Puis quand on rencontrera lorsqu'on reviendra en commission parlementaire, bien, on pourra faire les amendements nécessaires. Alors, j'invite les fédérations à venir aux tables de négociation pour les prochaines semaines.
Madame Biron,
c'est un changement de ton majeur. Et là, la balle est dans le camp de la Fédération des médecins spécialistes et de la Fédération des médecins omnipraticiens, parce que si on ne va pas s'asseoir à la table, l'odieux va leur revenir.
Tu n'as pas l'air de bonne foi si tu ne viens pas te rasseoir
exactement
à la table. Donc, c'est habile là, de la part de Christian Dubé. Hein, c'est un jeu, les négociations oui comme ça dans l'espace public. Là, on met de la pression, on n'est pas fin. Après ça, on lève un peu le pied puis on dit « Ah, je vais bouger un petit peu oui ». Christian Dubé qui dit qu'il est prêt à bouger, hein, parce qu'il y a, oui, des, il y a des cibles qui vont être associées à une partie de la rémunération. Il s'est dit prêt à faire des ajustements. Mais en échange, il va demander évidemment certaines choses aux
exactement
médecins.
Exactement. On parlait de 25 % sur la performance. Apparemment qu'on serait rendu à du 15 %. Mais une place, et on termine avec ça, une place où il a dit qu'il allait bouger, c'est sur les heures pour les blocs d'opération. On l'écoute.
L'ensemble. Engagement pour ouvrir des salles d'opération parce que
ça, c'est un
manque de personnel, salles d'opération fermées. Vous avez une responsabilité aussi de leur donner des outils
tout à
pour
fait
travailler.
Tout à
et
fait.
Vous ne respectez pas votre engagement actuellement.
Oui, on va respecter notre engagement.
Non, pas actuellement.
Monsieur Laforêt, je veux juste terminer, si vous permettez. Le principe qui est demandé d'avoir des engagements, on est d'accord avec ça. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir des engagements pour qu'ils puissent performer, pour qu'ils puissent, exemple, opérer. Prenons un exemple. Ils nous demandent d'ouvrir plus de salles. Disons qu'on a 400 salles qui sont ouvertes en ce moment. Bien, il y a deux approches, puis c'est ça que j'ai demandé à Santé Québec. On peut soit ouvrir plus de salles ou d'augmenter les heures. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on fait 400 000 heures d'opération ou 425 000 heures d'opération? Et c'est là que, si on s'assoit à table puis qu'on dit voici l'engagement qu'on pourrait prendre à ouvrir les heures, en autant que tout le monde soit là, on n'a peut-être pas besoin de plus de salles, mais on pourrait avoir plus d'heures pour opérer. Mais si on n'est pas assis aux tables pour avoir cette discussion-là, alors nous, on va faire une proposition qui sera la meilleure possible quand on rentrera en chambre au début d'octobre.
Bref, asseyez-vous à table si vous voulez, quand on rentre en chambre au début octobre, il y a des amendements au projet de loi.
Il y a la
c'est tout simplement ça.
Et qui gère.
Oui, t'as raison.
Je suis dans sa voix.
As-tu les yeux aussi que
mais
Christian
puis le pire, c'est qu'il travaille très fort. Là. Je pense qu'Antonine, tu l'entends aussi dans les corridors, puis les gens qui donnent l'info politique et que c'est pas facile la santé.
Non, effectivement, c'est un dossier qui est difficile. L'affaire avec les médecins, présentement, c'est qu'il y a beaucoup d'émotivité. Mmh.
Oui.
Ils sont comme insultés, permanent insultés. D'ailleurs, chaque fois que je prends la parole, ces médecins, je reçois un paquet de courriels en passant. Là,
oui,
parce
hein?
que je
comme quoi, tu es dans le champ, tu comprends pas.
On comprend rien. On comprend jamais rien. Là. Soyez bien assurés que c'est pas
de là, moi, j'ai bien compris qu'il faut qu'ils s'assoient à la table des négociations.
Oui, puis ils devraient faire une couple d'entrevues aussi, ces médecins. Parce que juste chialer sur les gens qui font du commentaire, à un moment donné, ça fait pas. Venez expliquer aux gens comment ça se passe.
Et on ouvre toujours la porte.
Toujours,
on le dit depuis des semaines au 88-971-102.
Moi, encore cette semaine, j'ai fait des demandes d'entrevue autant à la Fédération des médecins spécialistes qu'à la Fédération des médecins omnipraticiens. On me dit, on s'en tient au communiqué qu'on envoie. Alors là, si vous voulez pas venir débattre, les amis, c'est votre problème.
Bien, il devrait, parce qu'il y a plein de choses à expliquer. Puis toute la question des salles d'opération, des blocs opératoires, c'est hyper important. J'en sais quelque chose, j'attends une chirurgie, ça va être vraiment long. Mon médecin, elle est prête à m'opérer, c'est pas ça. Mm-hmm. Elle dit, on a énormément de retard, j'ai pas d'infirmière. Mm-hmm. Je n'ai pas d'infirmières. Donc, il y a du vrai dans ce que disent les médecins aussi. L'affaire, c'est que les médecins sont tellement rendus fâchés que là, ils veulent un arbitrage. Donc, ils ne veulent pas retourner à la table de négociation. Ils veulent un arbitre, comme ça se fait ailleurs, d'ailleurs, ouais, au Canada pour les médecins, ce que Christian Dubé ne veut pas, parce qu'il y a certains éléments sur lesquels, vraiment, il ne veut pas bouger.
Il veut garder la pogne.
Il ne veut pas laisser ça à un arbitre mm-hmm. comme tel. Mais à la fin de la journée, il va falloir qu'on trouve une solution où on va avoir écouté ce que les médecins disent aussi. On ne peut pas juste leur enfoncer dans la gorge parce qu'on n'y arrivera pas. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux de système autour d'eux aussi qui ne fonctionnent pas bien.
Clairement, il faut leur donner des conditions gagnantes avec des heures d'opération, avec des infirmières spécialisées qui vont appuyer les médecins de famille.
Il faut les écouter parce qu'effectivement, ils sont sur le terrain. Puis moi, j'ai des amis beaucoup qui sont en santé. Puis actuellement, la crise est importante au niveau des infirmiers et infirmières. Là, ils sont terrain-té. Puis en plus, ça commence à chicaner avec les médecins. Fait que là, t'es un gros bourbier, là. Le gros bourbier est là.
Puis une autre pomme de discorde, c'est que, dans le fond, le gouvernement dit qu'il faudrait que les médecins travaillent plus. Et les médecins disent qu'ils ne peuvent pas travailler plus. Il manque de médecins. Donc ça, là-dessus, on ne s'entend pas. j'ai un peu de mal à croire que on peut pas, c'est impossible de faire travailler un peu plus différemment. Non. Surtout si on leur donne les conditions gagnantes, qu'on améliore le système aussi autour d'eux.
Exactement, moins de paperasse, moins de bureaucratie. Exactement. Il y a moyen d'avoir des voies de passage. Antonine Iaccarini, merci beaucoup pour ce segment du Caucus Iaccarini. On te souhaite un bon long week-end et on se reparle lundi.
À lundi.
Cool. Après, justement, cette courte pause, circulation avant, Pascal?
Oui, trafic d'enfer dans le Bourgneuf. Là, on vient de parler à notre collègue Denis Gravel qui est pris là-dedans. Sortie Laurentien Sud, c'est barré sur Louis XIV. On fait faire un détour vers les Gradins. C'est en entonnoir, donc là, ça congestionne. Les travaux sur le Bourgneuf plus l'accident de ce matin sur Pierre-Bertrand, ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile. Puis je vous rappelle l'accident sur Pierre-Bertrand. C'est un homme âgé dans la quarantaine qui a été grièvement blessé à la tête. En fait, ce qui s'est passé, c'est un face-à-face avec un camion Ben. Alors, impact qui est arrivé sur le boulevard Pierre-Bertrand, mais non loin du boulevard Le Bourgneuf, vers 6h10, puis on a encore des relents de tout ça.
Après cette courte pause, on parle avec Gabriel Jugard de l'Institut économique de Montréal, des gens qui quittent l'urgence, plus de 11% des patients au Québec. Et on va également parler d'une baisse drastique au niveau des exportations, notamment dans le domaine de l'aluminium. Restez avec nous, vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
On est là-dedans. On est vraiment au moment où il faut planifier les parties de Noël. Nous autres, on commence à travailler là-dessus, là, autant en personnel qu'au professionnel, parce que, voyons, qui va pas fêter dans le temps des fêtes avec sa gang? Puis nous, on vous envoie au complexe de l'hôtel Maurice. C'est un endroit idéal pour le faire parce qu'on a plein de paliers. Je vous le dis, autant pour des rencontres corporatives, des réunions de groupe de famille, des rassemblements d'affaires, il y a l'hôtel, il y a le restaurant, il y a le cigar lounge et le speakeasy. Tout ça au même endroit. C'est vraiment un complexe qui regroupe tous les genres pour tous les genres de personnes aussi dans votre entreprise. Vous réservez dès maintenant pour votre party de Noël parce que les disponibilités s'envolent rapidement. Si vous avez des questions, si ça se pose, hein, si vous n'êtes pas certain, si vous voulez quelque chose au lieu d'une autre, le complexe de l'Hôtel Maurice. Allez sur le site web pour faire votre réservation au hôtelmaurice.ca.
C'est la grande vente.
On en charge avec Jeff Fortin, Pascal CV sur les ondes de Boulevard 102.1 de midi à 14h du lundi au vendredi. À la météo, 21 degrés à l'heure actuelle. Il annonce 23 degrés. Peut-être une petite poussée d'averse cet après-midi, mais c'est à 40%. Du soleil jusqu'à dimanche par la suite, 17 degrés vendredi, 17 samedi, 19 dimanche. Un super beau week-end avec l'automne qui va frapper à nos portes. Pascal, encore des problèmes dans la circulation?
Je veux rappeler le trafic d'enfer qualifié par Denis Gravel dans le Bourgneuf. À la sortie Laurentien-Sud, là, c'est barré sur Louis XIV. Le détour se fait par dégradin, mais c'est en entonnoir. Si vous avez du temps à perdre, c'est vraiment dans ce secteur-là de la ville. J'essaie de... faire une blague, mais c'est super complexe. C'est ça. Parce qu'il y a des travaux sur le Bourgneuf. Il y a eu l'accident ce matin aussi sur Pierre-Bertrand. Donc, les gens ont un petit peu de difficulté à circuler. Là, c'est vraiment pas fluide. Sinon, je pourrais aussi parler aux abords du pont Pierre-Laporte. Il y avait une complexité en direction nord, à la fin du tablier, la voie de gauche, la voie centrale, qui était partiellement entravée. Il y avait des débris. On a enlevé ça, mais ça a ralenti le secteur. Et sur Laurentienne-Sud, bretelle pour l'autoroute Félix-Leclerc-Ouest, la voie droite, est bloquée. Il y a un accident.
On rejoint au bout du fil Gabriel Giguère, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. Gabriel, ça va bien?
Ça va très bien. Content d'être avec toi.
Oui, moi aussi très content. Gabriel, on va parler des urgences. Et avant, je veux te lire justement un texto qu'on a reçu de Mylène concernant les urgences, qui mentionne qu'elle est arrivée à l'urgence avec des douleurs au ventre. Elle est arrivée vers 7h le matin. Ils l'ont fait attendre jusqu'à 16h avant de voir un médecin. Donc, bref, elle dit « On espérait sûrement que je me décourage et que je parte. » Le médecin m'a dit à peu près « On n'enlève pas les stérilets ici. C'est impossible qu'ils vous fassent si mal de toute façon. » J'ai pleuré, j'ai supplié le médecin. Il a finalement décidé de me faire passer des examens. Résultat, phase aiguë de diverticulite et donc découverte d'un problème d'intestin à vie. Ils se sont ensuite excusés en m'expliquant que c'était arrivé que des femmes fakent des douleurs pour faire enlever leur stérilet au lieu de prendre un rendez-vous chez le médecin. Morale de l'histoire, ne dites jamais ce que vous pensez avoir, ça pourrait vous nuire. Gabriel, des histoires comme ça, je suis convaincu qu'il y en a plein au Québec et surtout avec les statistiques que l'Institut économique de Montréal nous présente aujourd'hui.
Oui, d'abord, quand même, je reviens sur l'histoire, c'est quelque chose, c'est très... c'est un peu troublant de voir qu'on peut être pris en charge comme ça en matière de santé au Québec. Là, c'est de la souffrance, puis ça, je pense que c'est important à avoir en tête. Mais t'as raison, JF, quand tu dis qu'on a sorti des statistiques ce matin, ma collègue là, Emmanuel Faubert, pour être précis, a sorti d'excellentes statistiques. Et ce qu'on constate, là, c'est qu'au Québec, on a environ une personne sur 10 ou une visite sur 10 aux urgences. Là. Ça, c'est du monde qui ont besoin d'être soigné comme Mylène, qui vont aux urgences, ben ils partent. Ils partent parce que, justement, l'accès aux soins de santé est difficile. Les temps d'attente, on l'a vu, on en a discuté ensemble plus tôt cette année, ont augmenté beaucoup au Québec. Et donc, ça fait en sorte qu'on est moins pris en charge. Là. De 2019 à aujourd'hui, plutôt en 2019 et 2024, donc l'année dernière, il y a une augmentation quand même là, de 35% de ces gens qui vont aux urgences et qui quittent sans être pris en charge. Puis je pense que collectivement, on doit se le dire, on doit s'asseoir et regarder ça. Le ministère de la Santé doit se pencher sur ces chiffres-là parce que c'est leur chiffre à eux. Soit dit en passant, ça découle d'une demande d'accès à l'information. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'au Québec, une personne sur 10 ne soit pas prise en charge. Puis quand on compare ça aux grandes provinces canadiennes, parce que bon, c'est sûr que si on compare avec l'île du Prince-Édouard, où c'est tellement différent là, le nombre de la population, que les chiffres ne sont pas tout à fait comparables. Mais quand on regarde l'Alberta, quand on regarde l'Ontario, on le sait, le gouvernement du Québec aime ça, se comparer à l'Ontario, bien, ce qu'on constate, c'est qu'on fait moins bien. En Ontario, c'est moins de 5 % des gens qui quittent, tandis qu'ici, c'est plus de 11 %. Donc, on comprend qu'au Québec, on a énormément de travail à faire, et ça, il faut le dire, c'est assez alarmant.
On se demande si on n'a pas un peu abdiqué par rapport à ça. On trouve ça trop gros, puis on se dit, bien, regardez, là, il va falloir revamper un peu le système de la santé si on veut arriver à passer à travers l'urgence, parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi il y a une trolée d'ambulanciers qui attendent avec les patients au lieu d'avoir un infirmier, une infirmière auxiliaire ou quelqu'un d'assez qualifié pour prendre soin de ces gens-là qui sont en attente. On est en découverture pendant ce temps-là en termes d'ambulance sur le territoire. Ensuite, ça avance pas. On fait attendre sur des chaises bien froides, bien droite des gens qui sont déjà en douleur, accompagnés de personnes en détresse psychologique. Il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. On se demande, ben, y aurait le minimum d'intervention qui pourrait être fait, puis ça améliorerait déjà grandement la qualité dans nos urgences. Mais peut-être qu'on est à côté de la traque là, en se disant ça.
Non, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. On a l'impression que les gouvernements abdiquent, mais en même temps, on nous présente des nouveaux modèles dont on sait que ça fonctionnera pas. Du Santé Québec, où on veut faire du rebrassage administratif plutôt que de se concentrer sur le service qui est délivré aux citoyens, qui est fourni aux citoyens et aux patients. Donc ça, je pense que c'est clairement une des problématiques. Puis quand on regarde là le portrait, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, des gens qui quittent là, mais c'est une personne sur 10 qui quitte avant d'avoir été traitée, ben il y en a plusieurs que c'est quand même un niveau de priorité qui est alarmant. Mm-hmm. Quand on parle là, de P1 à P5, qui est la gradation, P1 étant la personne est en arrêt cardio-respiratoire, donc évidemment, elle ne se lèvera pas pour quitter, mais P5, ça peut être de prescription médicale. On a quand même du P3, là. Donc P3, on peut être sur de l'asthme modéré à légère, mais c'est quand même quelque chose d'important, douleur abdominale avec vomissement. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'être pris en charge, mais dont la qualité de la première ligne actuellement ne leur permet pas et donc vont quitter. Et ça, nous, collectivement, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer justement d'arrêter d'avoir l'impression que nos décideurs politiques sont à côté de la plaque d'une part ou simplement abdiquent, comme parfois on a l'impression. C'est de dire, mais peut-être qu'il y a des modèles alternatifs.
Oui, parle-nous-en, Gabriel, parce que ce que j'allais te dire, c'est pourtant, au niveau de la CAQ qui est au pouvoir depuis 7 ans, de Christian Dubé, le ministre de la Santé, on nous dit on a amélioré la première ligne avec le GAP. Mais ça, pour moi, ces statistiques-là, c'est la preuve d'un échec de cette révolution-là du guichet d'accès unique.
Moi, j'ai toujours peur des statistiques données par le gouvernement parce qu'il va en avoir 40 qui vont dans la version contraire, hein, dans la direction contraire qui démontre que ça va moins bien, mais il va en avoir une qu'on va mettre partout dans les médias pour s'expliquer que ça va bien. Donc, je pense qu'en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, puis ce qu'on a vu plutôt au courant de l'année avec d'autres classements canadiens, c'est quand même de montrer que le Québec, ça va pas bien. Donc, on peut se faire dire par le ministre, mais concrètement, des gens comme Mylène, il y en a. Il y en a beaucoup trop. Tu sais, je le rappelle, là, mais c'est 428 000 visites qui n'ont pas vu un médecin au Québec. C'est gros, là, 428 000. Je pense que collectivement, c'est un aveu d'échec. Donc, dans ce contexte-là, d'aller voir ailleurs, de voir en France ce qui se passe. En France, on a des cliniques qui permettent à des entrepreneurs de prendre en charge, justement, des gens qui sont pas dans l'arrêt cardio-respiratoire, mais qui peuvent être dans du P3, P4, oui. P5. Donc, de l'asthme modéré avec une certaine détresse respiratoire qui est grave, là, qui doit être pris en charge jusqu'à de la renouvellement de prescription. Donc, point de suture également. Bref, il y a des modèles alternatifs qui existent. En France, ils appellent ça parfois la bobologie, là, mais c'est quelque chose qui ne nécessite pas nécessairement d'aller aux urgences et ça permet de prendre les cas très lourds, très graves, plus rapidement en charge. Il va falloir que le ministre de la Santé puis le ministère de la Santé réalise qu'on peut pas continuer dans cette direction-là puis à nous vendre du Santé Québec puis de la réforme administrative quand les gens qui ont besoin, c'est d'être soignés.
Mais il y a des choses aussi importantes, c'est qu'il y en a qui vont pas... Tu sais, quand t'es rendu à avoir des stratégies pour passer à l'urgence, là, c'est que tu as vraiment la prétention de croire que tu te feras pas soigner dans des délais qui sont acceptables et que ta condition va probablement être encore plus problématique pour la suite. Mais t'as aussi des hommes, puis moi, ça me fait penser à un cas très près de moi. Quelqu'un qui avait mal, qui avait des douleurs dans le bas de ventre, qui est allé à l'hôpital, puis qui a dit, ben, j'ai des douleurs dans le bas de ventre, mais il a pas commencé à cette sorte de douleur parce qu'il fait dur, sa douleur. Finalement, il est en train de se faire une crise d'appendice. Puis comment il a réussi à se faire traiter, c'est qu'il a appelé des gens qui connaissaient en santé, il a commencé à décrire ses symptômes parce qu'on venait pas le voir dans la salle d'attente et ils ont dit, ben là, c'est une urgence parce que tu pourrais en mourir, là. Tu sais, si elle l'est pas pris à temps, cette crise d'appendice-là, tu meurs. Fait que, il a commencé à dire qu'il croyait que c'était ce qui se passait puis tout de suite, il a été pris en charge puis ils ont dit, pourquoi, monsieur, vous nous avez rien dit? Il dit, ben, je vous l'ai dit. Tu sais, ça dépend aussi de ça, tandis qu'il y en a d'autres qui vont faire en sorte que leurs symptômes paraissent plus douloureux pour essayer de passer parce qu'ils sont inquiets. Quand on est rendu à douter de notre système de santé, ça va encore plus l'ankyloser, j'ai l'impression. Et on le voit de plus en plus, on demande une contrepartie, ce qui est correct aussi. Mais tout le monde va trop vite dans le système. Tout le monde trouve sa stratégie. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus de ligne directrice. Est-ce qu'on se trompe, Gabriel?
Sinon, c'est très vrai de ce que tu dis, puis c'est vrai aussi que, je veux dire, la douleur, c'est subjectif, au sens où, oui, t'as mal, mais la façon de réagir sera pas la même. Fait que là, est-ce que tu vas t'adapter? Je comprends tout à fait, puis le problème aussi, c'est que, mettons, tu t'en vas à l'hôpital, t'as un problème, bon, c'est peut-être pas un problème de vie ou de mort, mais c'est un problème qui doit être pris en charge, puis tu peux pas aller voir ton médecin de famille, t'en as pas, tu peux pas aller dans les cliniques, sans rendez-vous, ça ne marche pas.
C'est rendu avec rendez-vous, puis ça, c'est si t'es chanceux, mais c'est du sans rendez-vous.
Exactement. C'est exactement ça. Fait que là, tu t'en vas à l'hôpital, t'as un vrai problème qui doit être pris en charge. C'est la seule façon d'aller aux urgences. Puis finalement, ça fait trop longtemps que t'attends, tu dois quitter. Mais c'est parce que, en réalité, quand on regarde les statistiques, t'as plus d'une personne sur deux qui quitte, qui va reconsulter dans les 3 prochaines semaines et à grande majorité pour le même problème. Donc, le fait que ça soit pas pris en charge, c'est pas des gens après ça que bon, le problème de santé se disparaît en fait. Absolument pas. Le problème de santé reste là. Il doit être pris en charge et malheureusement, on n'a pas d'alternative. Donc, collectivement, ça nous coûte plus cher, mais même pour la personne. La personne souffre. Donc, à la base, il y a un coût. Il y a un coût dans le fait de souffrir, puis ensuite de ça, c'est de dire, ben, elle va prendre une journée de maladie pour la première fois, mais elle peut pas être vue. Donc, la deuxième fois, elle va reprendre une deuxième journée de maladie pour le même problème qui aurait dû être traité. Je pense que collectivement, ça fonctionne pas, là. Je pense que on est devant un aveu d'échec, là. À tout le moins, le gouvernement, le ministre de la Santé va devoir répondre à certaines questions devant les statistiques qui, je pense, sont assez accablantes.
J'ai une question particulière, Gabriel, tu vas comprendre pourquoi je la pose. Quand vous avez fait une demande d'accès à l'information, est-ce qu'il y avait des choses caviardées dans votre demande d'accès à l'information?
Ben d'abord, il y a deux volets à cette
réponse. Tu comprends pourquoi je la pose,
Oui, bien sûr. La première, c'est ma collègue qui l'a faite. Donc, je veux prendre son travail quand même. Et là, on a décidé d'aller plus large en la matière. Donc on est allé faire un classement interprovincial et ça a été très, très long. Mais non, on n'a pas eu d'éléments caviardés. Ils nous ont simplement pas transmis certaines provinces, là, les éléments qu'ils voulaient pas qu'on ait.
Merci beaucoup, Gabriel Giguère. On parlera des exportations plus tard parce que sur la ligne, on va avoir prochainement le candidat à la mairie, Sam Ahmad, qui va répondre là, à des accusations d'intimidation. Il nous appelle dans quelques instants. Gabriel, un grand merci et on se reparle prochainement. Merci pour cet excellent dossier.
C'est un plaisir. Au revoir.
Salut, Gab.
Tu comprends que quand je parle de caviardé, là,
ben oui.
C'est que parfois, ils nous donnent pas de l'information. Puis cette information-là qui n'est pas donnée, c'est elle qui est cruciale aussi. Fait que ça va être intéressant de reparler à Gabriel là-dessus. Puis en passant, vos histoires au 88-971-1021, Jeff les lisait, je les lis.
Ah oui, et on est en là-dedans. A plein qui entrent. Et justement, en attendant le téléphone de sa mamade, là, on a un auditeur qui nous écrit, Eric, c'est pas drôle, vraiment, c'est rendu que ça prend un doctorat en souffrance pour être capable d'avoir de l'aide. C'est tellement vrai.
Mais tu sais, quand des gens simulent une douleur plus aiguë que ce qu'ils ressentent, là, parce qu'ils sont inquiets. Là, je fais pas du tout la morale. Là. Ils sont inquiets.
Exactement.
Puis ils savent qu'ils vont passer dans 12 heures, dans 13, puis ils ont peur d'une dégradation de leur état. C'est pas plus drôle, là. Mais ça fait en sorte que ça peut être quelque chose de très négatif. Là.
Clairement. J'ai été à l'hôpital dû à une douleur à une dent et mon visage était enflé. 8 heures plus tard, je vois le doc. Il est allé chercher l'infirmière et lui a dit « Quand tu as un patient avec ces symptômes, tu le passes tout de suite. L'infection pognée dans mon sang... » a fallu que je fasse l'intraveineuse pendant 5 semaines.
Ça fait pas de sens.
Ça ne fait aucun sens. Et là, il y a plein d'histoires qui rentrent. On va vous lire tout à l'heure. Parce qu'on a au bout du fil le candidat à la mairie de Québec et également chef de Leadership Québec, M. Sam Hamad. M. Hamad, comment allez-vous?
Ça va très bien.
Excellent. Vous avez fait des annonces de... Fait plaisir. Vous avez fait des annonces de candidature tout à l'heure?
Oui, on a annoncé 3 candidats dans Québec. Et un ancien, un gars qui était au ministère des Transports, qui s'occupe de toutes les études d'origine-destination, et un autre candidat, Robert, qui est dans le coin de Pointe-Sainte-Foy, Robert Fournier, et Véronique Thibodeau, dans Limoilou.
Dans Limoilou. À quand votre candidature dans Saint-Roch?
Demain.
Demain, la candidature dans Saint-Roch, au lancement officiel de votre campagne?
C'est que, honnêtement, on a plusieurs candidatures qu'on a reçues dans Saint-Roch. Pour ça, là, on attend la dernière. Là. Et le timing est bon d'annoncer demain. Avec toutes les. Ce que M. Marchand a dit, là, ça vaut la peine d'en parler demain.
M. Hamad, on va aborder la question. On entend votre ton de voix un peu plus, peut-être, sobre aujourd'hui. C'est comme ça que je vais le décrire. C'est une grosse journée pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des propos qui ont été allégués là, par votre homologue, M. Villeneuve?
Villeneuve, c'est la menterie. C'est un gars désespéré en passant. Et je vais vous le conter, ma version. D'ailleurs, c'est drôle. La journée où je l'ai rencontré, j'ai une photo qui date de cette journée-là. Donc, le gars, il était heureux. Alors, si un gars intimidé, il prendra pas une photo avec moi avec un grand sourire. Ce que j'ai dit, et comme vous le voyez, comme vous le savez, depuis le début de la campagne, les trois, quand Jackie Smith, Villeneuve et Marchand, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des insultes à journée longue. Marchand me traite de Trump, l'autre me traite de ci puis de ça. À un moment donné, je l'ai rencontré, Villeneuve, dans un événement à Diamant, et j'ai dit à Claude, j'ai dit, nous, on va en politique, on assume la responsabilité et les insultes. Mais je dis, Claude, il faut que tu montes ton niveau d'insulte, puis de ton niveau de campagne, puis je pense que quand on envoie des insultes, c'est notre famille qui est touchée. Il dit, toi, t'es un père de famille, t'as 2 enfants, c'est dur pour toi d'avoir des insultes, surtout pour ta famille. C'est exactement ce que j'ai dit dans le but de monter un peu son niveau, puis qu'il soit un peu gentleman, puis qu'il parle de politique propre. Parce que les citoyens qui nous écoutent, là, sont écœurés de voir les policiers de faire la petite cour d'école. C'est exactement ce que j'ai dit, mot à mot. Et d'ailleurs, j'ai dit la même chose à Jackie Smith.
Donc, c'est un conseil de vieux routier de politique. C'est ce que vous plaidez comme cause?
Exact. Puis en passant, je vais lui demander de se rétracter parce que c'est la menterie. Puis la preuve, imaginez, là, si je vous insulte et je vous intimide, Jeff, et après, est-ce que vous venez me rencontrer à mon bureau quelques semaines après?
C'est vrai, vous avez eu cette rencontre-là avec Claude Villeneuve. Après, vous avez parlé de référendum de tramway. Là.
Exact. Il est venu me voir après à mon bureau. À mon bureau, en plus. Alors, le gars, s'il était intimidé, moi, ma femme ne mettrait pas les pieds là.
J'ai une question pour vous, M. Hamad. Est-ce que vous êtes capable, bon, approximativement, de nous refaire le fameux scénario, entre autres le premier, là, celui où vous voyez lors de la première soirée où M. Villeneuve allait que vous lui avez fait la fameuse phrase « Fais attention à tes critiques contre moi parce que tu as 2 belles petites filles ». On va essayer de votre version de remettre les propos là, bien ancrés.
En fait,
vous êtes où? Vous êtes où? Dans quel mois? Puis qu'est-ce que vous dites?
C'était au Théâtre de Diamant. Je pense que c'est le lancement de livre de M. Labeaume. Et on était là, puis dans la salle, il y avait plein de monde. On se rend compte, évidemment, on se croise. Il parle, puis j'ai dit là, il faut que tu arrêtes l'insulte. Il faut qu'on fasse la politique propre. Puis je lui ai dit tout ça. Puis j'ai dit que moi, je trouve que faut pas insulter parce que ça touche nos familles. Puis comme toi, Claude, t'as deux enfants, deux jeunes enfants, tout ça. Je donnais l'exemple. Puis il dit, on devrait monter le niveau puis pas faire ça. Puis en plus, j'ai une photo de cette journée-là, cette soirée-là. J'ai une photo avec lui avec un grand sourire. Ouais. Puis l'autre preuve, imaginez, là, j'intimide quelqu'un. Mettons, là, comme il dit, là, ses enfants, là. Tu viendras-tu me voir après à mon bureau?
Donc, c'est votre alibi, c'est votre défense. Le fameux événement que vous parlez, c'était le lancement du livre de Régis Labombe?
C'est ça qu'il dit, oui.
Oui, lancement du livre de Régis Labombe.
C'est ça, au théâtre Le Diamant. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes avec Claude Villeneuve, là, de ses conseillers.
Est-ce que vous allez aller au niveau policier, peut-être, parce que c'est des fortes allégations? Pensez-vous prendre...
Pour le moment, je vais lui demander de se rétracter, parce que c'est en partie la diffamation. Puis regardez comment il joue ça, là. Là, il a parlé de mafia, il parle de ça. C'est un gars désespéré. Il a eu 4 ans à l'hôtel de ville de faire quelque chose. Il a perdu 8 conseillers sur 10. Les sondages, ils lui donnent quasiment dernier ou presque. Puis là, il est désespéré. Puis là, il joue le jeu, puis il essaye de parler de ça. S'il y a eu vraiment cette histoire-là est vraie, pourquoi il a attendu jusqu'à aujourd'hui d'en parler?
Mm-hmm.
Voyons donc.
Ouais,
il n'arrête pas de m'insulter à journée longue. C'était une belle occasion pour lui de sortir et de le dire tout de suite.
Mm-hmm.
Il prend une photo avec moi, une photo avec un grand sourire. Puis il vient me rencontrer dans mon bureau. Voyons donc.
Excellent. Donc, vous pensez que c'est pour tenter là, de se faire du capital politique sur votre dos?
Ben, regardez aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait. Il essaye d'être un dans les médias. Là, on parle de lui, au moins il a réussi quelque chose, on parle de lui. Puis de montrer, parce que sinon, il n'y a rien à dire. À part d'insulter le monde, c'est que j'essaie de dire à tous les candidats, arrêtez de faire des insultes, arrêtez, s'il vous plaît, qu'on fait la vraie politique, parlons des vraies affaires des citoyens, s'il vous plaît.
Monsieur Hamad, en terminant, pouvez-vous nous donner quelques lignes du plan Saint-Roch de Leadership Québec que vous allez présenter demain?
Demain, le candidat, c'est un candidat impliqué pas mal dans Saint-Roch. Il fait quasiment partie des meubles. Il a vu l'histoire de Saint-Roch de A à Z.
Et vous situez où par rapport à Saint-Roch? Parce qu'on avait Stéphane Lachance en entrevue ce matin. Lui, il dit stationnement gratuit, plus de sécurité. Bruno Marchand dit on refait les parcs à coût de 100 millions. Vous, ça va être quoi votre stratégie pour Saint-Roch?
En fait, un, travailler avec les groupes communautaires, c'est un joueur important. Deuxième élément, on va travailler avec la police. On va augmenter ce qu'on fait. Je vais vous l'expliquer plus tard dans notre programme. On va faire pas mal d'autres gestes pour la police. Évidemment, la propreté, ça fait partie. Je suis allé, là, j'ai passé 2 jours là, à Saint-Roch cette semaine, la semaine passée, et j'ai vu comment ça travaille, les gens travaillent là. Il faut entretenir les parcs, c'est normal. Puis avez-vous regardé aujourd'hui, M. Marchand dit, Bruno Marchand, il dit qu'il va annoncer ça après le 2 novembre. Les détails, puis il n'y a aucun détail de montant d'argent pour les parcs. Je comprends pas. Il fait un plan, il sort un gros 100 millions. Finalement, c'est dans 15 ans. Puis là, après, il annonce les détails après l'élection. Mais voyons donc. Nous autres, on va agir. Première chose, c'est les itinérances. Deuxième, c'est les propriétaires. Troisième, les commerçants. Puis pas par ordre d'importance. Il faut aider tout ce monde-là. Il faut aider les groupes communautaires qui travaillent pour sortir ces gens-là. Il faut aider les commerçants. Il faut travailler pour ramener le climat et l'atmosphère comme il était avant.
Monsieur Hamad, on vous remercie beaucoup de nous avoir appelé concernant cet événement avec Claude Villeneuve. On vous souhaite un bon lancement demain et au plaisir de se reparler prochainement.
Merci, puis je lui demanderai de se rétracter.
Parfait.
Facile. Merci, bye.
Merci beaucoup, Monsieur Hamad. Au revoir. On va tenter justement d'avoir Claude Villeneuve au téléphone aujourd'hui. J'ai fait la demande justement à son équipe de communication.
Je trouve ça très pertinent de le faire dans le contexte. Il y a quelque chose que j'ai envie de jaser avec toi parce que je trouve que cette défense-là peut se tenir.
Oui.
Dans une discussion comme celle-là, puis c'est souvent ce que Monsieur Hamad disait en onde. Par contre, on dit qu'il n'y a aucun témoin des deux scènes. Mm-hmm. Donc là, on va y aller avec ce que l'un dit et l'autre dit. Si ça s'avère qu'on fait de la politique de cette manière-là puis qu'on s'en va dans les médias en utilisant des termes comme « mafia », il s'en prend un peu à mes filles. T'sais, on lit entre les lignes là, de ce qui... C'est vraiment particulier. On est rendu... C'est assez bas de gamme au niveau de la politique. Autant dans les deux sens. Si cette histoire-là s'avère, là, c'est très bas de gamme. Et si ça s'avère que c'est faux, que c'est vraiment le contexte que M. Hamad nous a amené, qui se défend somme toute assez bien, parce que les gens le prétendaient aussi. Voyons, c'est-tu dans un contexte où...
Exactement.
Tu sais, ça avait été amené par les auditeurs avant d'entendre M.
Hamad. Moi, j'étais là cette soirée-là du lancement du livre de Régis Labombe. Claude Villeneuve était là, Sam Hamad était là. Jamais on a senti
une tension,
quoi que ce soit. J'ai parlé avec les deux, moi, cette soirée-là. J'étais accompagné d'Olivier Lemieux aussi, mm-hmm. de journaliste de Radio-Canada, quand on a parlé de Claude Villeneuve et Sam Hamad. J'ai jamais senti de tension, mais là, bon... Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas existé? Non, mais j'ai jamais senti cette tension.
Mais tu sais, c'est une histoire aussi, moi, que si je suis Claude Villeneuve, ça m'arrive, puis je sens que ma famille est menacée ou quoi que ce soit. Ben écoute, je m'en vais à la police avant.
Oui.
Il y a plein d'affaires que...
Puis je la sors pas dans les médias, là, le 18 septembre, quand c'est arrivé au mois d'avril
Par
l'année passée.
Par deux reprises, selon ce qu'allègue M. Villeneuve.
Exactement.
C'est très étrange, puis on continue de l'écrire au 88-971. On veut vous entendre là-dessus.
Vraiment.
Parce que au-delà de ça, si on creuse, là, si on va dans le fond de l'histoire, là, c'est pas les propos, c'est pas la chicane, c'est, pas... mm-hmm. c'est le niveau de politique.
Oui.
C'est ce qui va nous gérer là, dans quelques mois.
Ben, en plein
c'est là où le bas blesse.
Je suis tellement d'accord avec toi. Je voulais une campagne à la Ville de Québec qui porterait sur les idées. Puis là, on a une campagne sale comme on n'a jamais eu.
Très infantile.
Vraiment.
Si c'est le cas. Et j'espère que M. Villeneuve va prendre le téléphone.
Oui.
Et si c'est le cas, qu'il se rétracte. Et si c'est pas le cas, ben qu'il aille à la police.
Exactement. On a plein d'auditeurs chemin qui nous écrivent ça vole pas, c'est dommage parce que toutes ces chicanes-là vont faire passer Bruno Marchand. Pensez sincèrement que M. Hamad fait une menace de ce genre est ridicule à l'extrême.
Personnellement,
M. Villeneuve devrait être gêné. Puis
personnellement, j'ai de la misère.
Ouais, et moi, si Claude Villeneuve veut nous appeler, ça va me faire plaisir parce qu'aussi, souviens-toi, il y a eu la fameuse histoire d'intimidation à l'hôtel de ville qui a fait patate un peu, mais Claude Villeneuve en avait fait un gros dossier médiatique. Donc, tu sais, quand tu cries souvent au loup, des fois, c'est plus dur de croire.
Écoute, là-dessus, je suis pas vraiment... commentaire, mise à part, j'ose croire qu'on n'est pas là.
Ben, j'ose croire qu'on n'est pas, pas là.
Je trouve ça difficile. Jeff, hey Jeff,
Ouais.
Puis
là, Manon nous écrit tous contre Hamad en ce moment, en effet. Plusieurs personnes sont contre Sam Hamad. On en parlait justement ce matin avec Stéphane Lachance.
Mais ça ne donnerait rien à M. Villeneuve que ce soit vrai qu'il aille dans les médias comme ça avec
non.
ça. Et que ce soit faux, ce serait pire. Ça va commencer à faire une campagne, en fait, de pauvre M. Ouais. Hamad. Là, puis ça va lui amener des votes. Alors, M. Villeneuve, je ne suis pas sûr que c'est calculé si jamais ça s'avère faux.
Ouais. Chose certaine, il y a plusieurs auditeurs qui écrivent aussi que c'est Bruno Marchand est assis présentement dans le siège du conducteur et il est mort de rire. Continuez de vous chicaner derrière moi.
Mais moi, je
bon,
veux.
Pendant ce temps-là, je m'en vais à mairie. Moi non plus, je veux
de la qualité politique. Je veux de la politique qui.
Honnêtement, qu'on nous doit pour la ville de Québec, pour ce que la magnifique ville est avec tous ses citoyens.
Je suis tellement
qui
d'accord avec toi.
Tous les jours. À force de leur front, à élever leur famille, je peux pas croire que ce serait ça.
Ah, je suis d'accord avec toi à 100%. On fait une courte pause, Pascal, et au retour, on va parler avec l'excellent chroniqueur Rémi Villemur, animateur au Sous 99.5 Montréal. On va revenir, entre autres, sur l'histoire de Jimmy Kimmel, qui a été suspendu présentement par le réseau ABC après des propos tenus en ondes sur la mort de Charlie Kirk. Vous êtes sur Boulevard 101, c'est l'émission Sans Jase. 13h15 exactement à l'émission On en jase à Boulevard 102. On va aller rejoindre prochainement notre excellent chroniqueur Rémi Villemur. Juste pour vous rappeler qu'on est en attente de nouvelles de Claude Villeneuve. On vient de parler avec Sam Hamad, accusation de Claude Villeneuve à l'endroit de Sam Hamad, à l'effet que Sam Hamad lui aurait dit lors du lancement du livre de Régis Labombe au Théâtre Le Diamant, fais attention à tes critiques contre moi parce que tu as deux belles petites filles. Et Sam Hamad lui a raconté, Pascal, qu'il avait dit à Claude Villeneuve, il est temps de faire de la politique autrement, t'aimerais pas ça être sali dans les médias, t'as deux belles petites filles.
D'élever le niveau, c'était sa demande, en disant, écoute, là, si tes enfants entendent ça, de ce qu'on a compris entre les lignes de notre dernière entrevue, notre dernier entretien avec Sam Hamad dans
Exactement.
Les cinq dernières minutes, faut le dire, c'est là,
oui.
là. Et ce qu'il dit, c'est, je voulais élever le niveau de la politique en se disant, ça sert à rien, nos familles écoutent, là. Est-ce que vraiment on fait cette petite politique basse, point d'interrogation.
Exactement. Parlant d'élever le niveau de la politique, on en parle énormément aux États-Unis, Rémi Villemur. Et là, autre revirement de situation dans le dossier du meurtre de Charlie Kirk, c'est Jimmy Kimmel qui est suspendu indéfiniment par le réseau ABC après un commentaire qu'il a fait en ondes concernant justement le meurtrier de Charlie Kirk.
Oui, puis il a perdu son travail là jusqu'à nouvel ordre. Puis, vous savez, je veux qu'on parle aujourd'hui tous les trois des grands pièges qui existent quand on fait ce métier-là tous les trois, de donner une opinion tous les jours, de défendre une certaine façon de voir le monde. Depuis des années, moi, je dénonce une certaine gauche qui utilise les campagnes d'annulation, utilise le chantage, utilise les bonnes mœurs pour faire valoir leur point de vue. Puis je ne me concentrais pas sur la droite parce que je la voyais moins active dans ce domaine-là, hein, dans le domaine de l'annulation. Et là, je trouve qu'il faut passer par-dessus l'un des plus gros pièges qui est celui de l'incohérence. C'est-à-dire que ça serait tellement plus facile pour moi aujourd'hui de faire comme d'autres et de dire, de mettre des nuances, de dire « Ah non, c'est pas de l'annulation, c'est une décision commerciale, c'est pas une annulation, c'est autre chose. » Ben c'est une campagne d'annulation.
Toi, tu vois ça comme une campagne contre la liberté d'expression?
Ben tout à fait. Regardez, je vais vous citer Donald Trump. Donald Trump, il est actif sur Truth Social, c'est son réseau social. Il a dit « Excellente nouvelle pour l'Amérique » en parlant de l'annulation du spectacle de Jimmy Fallon, du spectacle de son émission. Il a dit « Ils ont enfin fait ce qui devait être fait. » Donc, hein, il y a des... Là, quand on met la pression pour annuler quelqu'un, c'est quand on part du principe qu'il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui doivent être faites, il y a des comportements à adopter dans une société. Donc, quand il dit « ça devait être fait », c'est que finalement, le fait que Jimmy Fallon ait exprimé une opinion qui n'est pas la sienne...
Rémi, excuse-moi, je te reprends. Tu as dit Jimmy Fallon à deux reprises, c'est Jimmy Kimmel, pour pas qu'on...
Jimmy Kimmel, tu sais, ça n'a rien à voir avec... J'ai toujours confondu ces deux gars-là.
Il n'y a pas de problème.
Oui, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, après, il a dit « Son show is cancelled ». Il a dit ça en majuscule sur son réseau social. Donc là, on peut commencer à tourner autour de ce sujet-là de différentes façons, de dire « c'est pas une campagne d'annulation, c'en est une. Le mot est exprimé par la droite. Donc, il faut être cohérent. OK? Si on est contre... les entraves à la liberté d'expression, ben on l'est tout le temps. Si on est pour la liberté d'expression, on l'est tout le temps. Est-ce que la blague de Jimmy Kimmel était une blague appropriée? Je ne pense pas. Est-ce que c'était une blague qui avait, disons, un bon timing? Je ne pense pas non plus. Mais la liberté d'expression, c'est ça. C'est de défendre des propos qui ne sont pas, évidemment, diffamants, calomnieux ou qui sont des incitations à la haine. Tout ce qui n'est pas ça, ça rentre dans la liberté d'expression.
Ouais, d'ailleurs, la blague n'était pas appropriée parce que le public n'a même pas réagi, n'a même pas ri, alors que le public se mordait de rire lorsque Jimmy Kimmel, justement, parlait d'un fameux « truth » de Donald Trump sur Truth Social concernant les bottées d'envoi dans la NFL.
Oui, tout à fait. Puis tu sais, je comprends par contre, là, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, je peux comprendre qu'il y ait eu un sentiment d'écœurement de la part d'une certaine droite depuis des années de voir de ses porte-paroles à être annulés, de ces porte-paroles à être, voir leurs émissions être suspendues. Et là, maintenant, on se dit, enfin, le backlash revient, hein, le karma frappe. Moi, je comprends ce sentiment-là, mais le défi et la vraie forme de courage, c'est de rester cohérent, puis c'est de défendre même nos ennemis. Hein. Tout le monde revient avec la phrase de Voltaire, là, qui est faussement appropriée, d'ailleurs attitrée à Voltaire, « Je vais défendre la liberté d'expression, même celle de mon ennemi, donc jusqu'à ma mort. » Donc, c'est ça aussi le vrai défi là-dedans. Puis, j'ai trouvé que beaucoup de gens qui étaient des porte-parole de la liberté d'expression à tout bout de champ, rapidement cette semaine, depuis deux semaines, on les voit quand même s'effriter. On les voit là qu'ils défendaient bien juste leur liberté d'expression, la liberté d'expression de leur camp.
Je suis d'accord avec toi qu'il faut se remettre en question constamment parce qu'assurément, on est biaisé dans certains spectres. Je veux dire, on vient tout le temps avec nos angles morts. Il faut en être conscient. Il faut être capable de les observer, de les identifier, de savoir dans quel monde on a vécu aussi. Puis de relativiser un peu notre expression émotive quand il vient le temps d'avoir justement des affaires dans l'actualité ou encore des gens qui ne sont pas en accord avec nous, lesquels les positions nous confrontent un peu. Je pense aussi qu'il y a un autre enjeu à pointer du doigt en ce moment dans tout ça, c'est à quel point c'est sensible, c'est fluide, mais c'est également très... La ligne est très mince entre les discours où les gens ne sont pas en accord avec nous, les discours de débat, les discours d'opinion, puis un genre d'appel à la haine qui est là, qui est stagnant dans nos sociétés. Puis c'est comme si les gens ne sont pas toujours capables, nous y compris, de totalement savoir qu'est-ce qui est un discours de haineux sur lequel on doit freiner peut-être un élan versus qu'est-ce qui est une opinion et qui se vaut même si ça ne nous correspond pas et ça ne correspond pas à notre éthique, à nos valeurs, à nos mœurs.
Ah, mais tout à fait, c'est un très bon point. La ligne est mince. D'ailleurs, je pense que ceux qui se sont réjouis ou ceux qui ont expliqué la mort, hein, ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Ils ont dit, moi, je dénonce des meurtres. Mais il faut savoir que quand on tient un discours comme ça, ben, tu sais, c'est pas très surprenant qu'on finisse de même. Ben, ça, c'est-tu un discours haineux? Hein, moi, je pose la question parce que c'est proche, en tout cas, là. Si c'en est pas un, là, c'est
Je
très,
suis pas
très, très.
raciste, mais on
Ah, ouais,
l'entend
non,
ça
mais.
aussi.
Oui, mais ça c'est une chose, les gens qui ont mis un mais au tout début. Mais quand vous êtes en train de justifier un meurtre, je pense qu'on est dans la catégorie des discours haineux, là. Je sais que c'est écrit dans la charte, c'est écrit dans le code criminel, c'est très bien défini. Mais entre vous et moi, la haine, c'est un petit peu ça, là, quand on donne un sens à un meurtre puis qu'on dit que quelqu'un l'avait cherché. Puis je pense que le point essentiel dans cette histoire-là, c'est l'idée qu'on forme des camps, qu'on forme des clans. Et ça, c'est le gros défi. Je dis pas qu'on devrait tous vivre chacun de notre bord, pas appartenir à une équipe. Donc, je suis pas du tout ce genre de personne-là. Je pense qu'au contraire, il faut s'unir, puis il faut s'unir avec nos amis, avec nos familles. Mais défendre l'indéfendable, parce que c'est dans notre camp que cette fois-ci, le tort est peut-être et réside. Ça, c'est très, très, très imprudent. Puis c'est ça qui fait en sorte que tout s'explique, que tout se relativise, alors que tout ne s'explique pas, tout ne se justifie pas, tout ne se relativise pas.
Et c'est là que le facteur émotif est
Ben
important à
vraiment.
prendre en compte, nos angles morts. Puis Jeff et moi, on avait une discussion il y a quelques semaines sur la cancellation dans notre propre vie. Demain, notre cousin, notre cousine, notre meilleur ami, notre artiste préféré commet des gestes répréhensibles, voire criminels. Est-ce qu'on les défend? Parce que, mon Dieu, on connaît une autre facette de
Ouais.
cette personne-là.
On disait, ben voyons, ça peut pas être mon Éric qui fait
Ça,
ça.
ben, Éric Lapointe, dans ce
Ouais,
cas-ci,
c'est ça.
c'est pas mon Éric qui avait coupable, là.
Ça
Il est
se
pas
peut
coupable, il fait
pas.
juste chanter qu'il est coupable. Mais ça,
Ouais.
c'est l'angle mort par excellence dans ces
Puis
situations-là.
Rémi, comment qu'on fait pour rapprocher ces deux camps-là? Puis là, je vais prendre l'exemple des États-Unis parce qu'on se rend bien compte que là, il y a vraiment le mouvement MAGA avec Donald Trump et le mouvement très extrême gauche qui prennent de plus en plus d'ampleur. On fait comment pour les rapprocher? On dirait que j'ai pas de solution, moi.
Ben, écoute, moi, je vais te dire quelque chose de grave pour commencer, puis après, il y a une solution. Pour les rapprocher, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Puis ce qui se passe, il y a trop de gens qui disent, ben, les gens sont polarisés, les gens sont tannés.
Sont
Non,
radicaux.
il y a une guerre culturelle. Il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus. On est en guerre culturelle. Le progressisme contre une idée plus conservatrice du monde, ça existe aux États-Unis depuis les années 60. Ça a remonté, ça a été tué, ça a été nié. Et là, maintenant, on commence à comprendre parce qu'il y a des meurtres. Hein, le fait que Donald Trump ait été victime de deux tentatives d'assassinat, il fallait comprendre ce qui se passait là. Il y a une guerre culturelle. Même chose pour Charlie Kirk. Alors, à partir du moment qu'on accepte l'état des lieux, ça ne veut pas dire qu'on dit on est prisonnier de ça puis on n'en sortira jamais. Mais il faut comprendre ce qui se passe. Hein, c'est comme un couple qui se chicane tout le temps puis n'a pas encore compris que peut-être qu'ils sont plus faits les uns pour les autres. Le jour où ils vont le comprendre, finalement, ils vont redescendre dans la cuisine puis ils vont prendre un café puis ils vont se regarder et ils vont dire bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est peut-être mieux d'arrêter ça là. Puis là, soudainement, le ton a baissé.
Ouais,
Mais c'est la.
calmement.
Oui, donc évidemment, je ne veux pas qu'on reste en guerre culturelle, mais il y a une guerre culturelle. Donc, s'il y a une guerre culturelle, il faut peut-être qu'on donne la permission à la droite d'occuper un plus grand rôle dans les universités, par exemple. On sait que les universités sont des chasses gardées de la gauche. Il y a un sentiment d'injustice qui habite beaucoup d'étudiants qui vont aux études supérieures, qui ont l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin, de ne pas pouvoir décrocher des postes de professeur, de pouvoir devenir eux aussi des tuteurs et des passeurs. Donc, peut-être qu'il faut aller là. Peut-être qu'il faut aussi slacker. Je pense que ça a très bien commencé, le slackage sur le wokisme, mais là, on voit que Donald Trump est aussi pire, honnêtement, parce qu'il en appelle à l'annulation. Lui aussi, il parle de liste de gens. Il encourage les entreprises à foutre dehors du monde. Donc, on est allé aussi loin. Le balancier est allé aussi loin. La solution, elle se trouve au milieu. Et peut-être qu'effectivement, il y a juste du temps qui va nous permettre de retrouver l'équilibre comme ça.
Est-ce que tu crois que les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient être une bonne période où on va justement, dans le temps, venir se rapprocher et qu'on va faire un exercice démocratique qui va permettre à certaines personnes de comprendre davantage là, ce qui est une société qui doit vivre ensemble?
Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut faire reposer sur les élections de mi-mandat là, une certaine importance parce que je pense pas que ça va passer par là. Mais par contre, il faut juste se rappeler que quand Donald Trump a été la cible de la première tentative d'assassinat contre sa personne, il a levé le poing au ciel, il a dit fight, fight, fight. Et 3 jours plus tard, il donnait des conférences, il donnait des discours où il avait baissé beaucoup le ton, où il en appelait moins à une vengeance, moins à une revanche, moins finalement à se battre. Et j'espère, et là je trouve que Pascal commence à avoir raison, parce qu'on a eu cette discussion-là l'autre jour sur Trump qui en appelait peut-être pas à l'accalmie, à un pacifisme. Là, je le trouve tout aussi belliqueux, presque plus d'une semaine plus tard. En fait, ça a fait une semaine là, il y a quelques heures. Là. Donc, c'est à lui de baisser le ton. Je ne dis pas de changer de sujet et d'orienter l'attention ailleurs, mais effectivement, si on s'en va en élection de mi-mandat avec le fantôme de Charlie Kirk en arrière, c'est le pire qui peut survenir.
C'est le pire scénario, puis si tout est dans le leadership, moi, je veux saluer un leadership très important au niveau des États-Unis, surtout de la gauche, c'est Bernie Sanders, qui est une des grandes facettes de gauche, et lui a pris la parole la semaine dernière et qui disait ça, c'est inacceptable, on ne tue pas ses ennemis de parole, ses ennemis politiques. Il a appelé à un calme, il a pointé du doigt les tensions actuelles, les gens un peu plus de gauche qui tombent dans l'extrême par les motifs, par l'envie que leur pays revienne à ce qu'ils ont peut-être un petit peu plus connu à un moment ou à un autre, mais leur pays, comme n'importe quel, est changeant selon les générations, les points de vue, ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je pense qu'autant, si on y va avec une axe politique, là, autant de gauche que de droite, il nous faut des leaders forts qui vont dénoncer ce que tu disais d'entrée de jeu dans ta chronique aujourd'hui, Rémi, qui est justement de regarder où est-ce que notre affrontement en termes d'idées s'arrête, mais aussi où est-ce qu'on doit comprendre notre ennemi, tiens, d'opinion de l'autre côté, puis en faire un genre de respect commun.
Oui, puis j'ajouterais juste une chose sur Bernie Sanders. Il vient d'affirmer qu'il y a un génocide à Gaza.
Oui.
C'est quand même extrêmement courageux et peut-être même téméraire pour un juif américain, parce que Bernie Sanders est un juif américain. Donc, c'est un mois de septembre assez spécial pour lui. Sa prise de position à la suite du décès de Charlie Kirk et une prise de position de la dans le dossier israélo-palestinien.
Effectivement, ça fait juste 5 heures de ça. Premier sénateur américain à accuser Israël de génocide à Gaza. Et ça aussi, ça va diviser. Mais comme tu dis, c'est du courage politique. On ne peut pas y enlever. Je ne sais pas si c'est dû à son âge, sa sagesse, plus rien à perdre. Puis qu'il se dit, ben, si je peux jouer un certain rôle, il décide de le faire. Mais bon. Il fait jaser.
Clairement qu'on salue les initiatives de Bernie Sanders, il n'y a pas de doute là-dessus. Rémi Villemur, on te laisse partir pour le 99.5 Montréal. On t'écoute ce soir de 18h à 19h. Merci pour cette excellente chronique et on se reparle mardi prochain.
Oui, merci à vous deux. Bye-bye.
Salut.
Salut Rémi. Alors, c'était Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h. Et également les week-ends. Pascal, on fait une courte pause et par la suite, on va parler avec une personne extraordinaire.
Quelque chose de positif, là.
Ouais, il s'appelle Jimmy Pelletier. Il fait le tour du monde en vélo à main. 40 000 kilomètres. Il amasse de l'argent pour, justement, les personnes qui vivent avec un handicap et qui veulent faire du sport pour adapter la vie.
Vélo à main, ça veut dire que c'est le vélo qui est couché, qui a deux roues derrière sa tête.
Ouais, puis là, tu sais, qui brasse les
avec,
bras.
Avec ses bras, oh là là.
40 000 kilomètres, pensionnaire. Ouais, 40 000 kilomètres. Après, on va le rappeler, une traversée du Canada, il y a de cela quelques années.
Incroyable.
Pas pire, hein? On parle avec Jimmy Pelletier immédiatement après cette courte pause. Vous êtes à Boulevard 101 à l'émission On en jase. Exactement 13h38. Merci, guys, pour vos beaux témoignages. On a parlé d'urgence tout à l'heure. On les a lus en entier. 418-971-1021. C'est toujours la meilleure façon de réagir avec nous. Et Pascal, avant qu'on ait rejoint Jimmy Pelletier, cet homme exceptionnel qui est présentement en Espagne, il y a une bonne façon de nous écouter aussi à Boulevard, je ne me trompe pas.
Ben oui, Jimmy Pelletier va pouvoir nous écouter en Espagne sans problème avec l'application.
Ben oui, exactement.
En passant, c'est 2 pour 1 en ce moment sur un prix de 0$. Fait que...
Ça, c'est parce qu'on va parler avec Jimmy, c'est ce que je comprends.
C'est vraiment pour la prochaine heure. Vous en avez 2 applications pour 0$. Que vous soyez en road trip, en chalet, peu importe, au camping. Tu disais qu'il faisait 24 hier.
Ouais.
Aujourd'hui, on est sensiblement dans les mêmes températures. Là, il fait beau. En fin de semaine, vous voulez nous écouter, c'est super simple. BLVD.fm, c'est la web radio. Sinon, vous dites à votre appareil, là, n'importe quoi, l'Alexa, là, votre appareil intelligent, écoutez BLVD. Je le dis même parce que je me suis fait avoir, là, mais BLVD 102.1.
Vraiment comme ça. Et
là, ouais, parce que sinon, ça t'amène une radio aux États-Unis un peu étrange. Mais BLVD 102.1 sur ton Google Home, puis tu peux nous écouter.
Pascal, si je te dis que Claude Villeneuve ne nous parlera pas, est-ce que tu penses que Claude Villeneuve aurait peut-être parlé trop vite ou n'aurait mis un petit peu trop?
OK, tu as eu ta réponse, donc
j'ai
c'est
eu
non.
ma réponse.
On t'a dit
pas.
Quoi?
On m'a dit qu'il est en déplacement, mais moi, quand je me déplace, check-by, puis là, je vois te le mimer, là. Ah, j'ai mon cellulaire.
Tara Galfortin? T'es Tara Galfortin?
Non, non, hey, Pascal, gars, je suis en déplacement, mais je peux t'en joindre.
OK, attends, je vais être moins arrogante que toi, mais je vais aller dans le même sens que toi, parce que souvent, s'ils ont des annonces à faire et elles sont positives, déplacement ou pas, ils vont nous parler. Ah ouais, fait que là, c'est un non. OK, donc on n'aura pas la réponse de M. Villeneuve face à ses accusations envers sa mamade d'avoir fait un genre d'intimidation.
Exactement, donc on n'aura pas la version de Claude Villeneuve. Est-ce qu'on l'aura demain sur les ondes de Boulevard 102? On va essayer de travailler là-dessus, évidemment. Sortons de la politique et allons parler d'un événement tellement positif et d'un homme extraordinaire. Je parle de Jimmy Pelletier qui fait le tour du monde à l'heure actuelle. 27 pays, 40 000 kilomètres. À vélo, à main. Jimmy, t'es-tu fatigué à l'heure actuelle?
Non, je me sens vraiment bien.
Wow! Après
hey,
combien?
Salut!
Salut!
Salut! T'es rendu à combien de kilomètres, Jimmy? Combien de pays? On en est où dans ton périple?
OK, mais présentement, là, on est rendu à 5370 kilomètres de parcouru. Ça fait 84 jours qu'on est parti. On est parti de Québec le 27 juin. C'était le début de la randonnée de Jimmy Pelletier. Il y avait 112 cyclistes qui m'ont accompagné pendant 3 jours. Par la suite, après, là, on a quitté là, pour l'Angleterre. On a fait le tour de l'Angleterre, aussi de l'Irlande. Et par la suite, après, mais on a atterri à Rome, en Italie. De Rome jusqu'à présentement où on est, là, on est rendu à Figueras, là, en Espagne.
Là, est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi ce défi-là? Parce qu'on parlait d'un vélo à main. Le pourquoi qu'on utilise un vélo à main? Pourquoi est-ce qu'on décide de faire le tour du monde? Ça intéresse nos auditeurs.
OK. Bien, le vélo à main, parce que moi, je suis paraplégique. J'ai eu un accident là, dès l'âge de 19 ans. J'étais originaire de Baie-Comeau, puis par la suite, après, mais quand j'ai eu mon accident, mais je me suis adapté dans ma nouvelle condition. Puis après, j'ai commencé à faire là, j'ai fait de la compétition d'athlétisme en fauteuil roulant, mais aussi j'ai fait les Jeux paralympiques à Turin en ski de fond. Et après, j'ai commencé à organiser la randonnée de Jimmy Pelletier pour redonner au suivant. Pour Adapte ta vie, aussi au début aussi pour le patron au Camado, mais maintenant c'est pour Adapte ta vie. Puis je suis très, très fier de pouvoir redonner au suivant en 2018, mais j'ai eu la chance de monter le Kilimanjaro, la deuxième personne au monde à monter en vélo de montagne. 2019,
Parce que là, Pascal s'en va monter le Kilimanjaro dans une semaine pour la Fondation Cerveau. Elle est en préparation depuis un an intensif. Et là,
j'entends
dire « Ah, moi, j'ai monté ça en vélo de montagne.
» Oui, ça va t'encourager, hein?
Ben pas mal. Ou me faire peur, là, je sais pas.
Il faut y aller, il faut juste y aller étape par étape pour voir la montagne tout de suite en haut. Y aller jour le jour, puis... C'est pas une course, hein? Fait que, nous autres, ça a pris 5 jours pour le monter. Puis on y était étape par étape. Puis je me suis rendu en haut. Puis en 2019, mais j'ai eu la chance de traverser le Canada de Vancouver jusqu'à Halifax, là, 5200 kilomètres en 65 jours. Fait que, tu sais, tous ces défis-là avec les Paralympiques m'ont amené à vouloir traverser, à faire le tour du monde avec ma femme. Puis j'ai une équipe là, de 2 personnes qui me suivent. Il y a 4 équipes là, au total qui vont... ils viennent 2 mois, puis après, mais j'ai une autre équipe qui vient là, prendre la relève parce que c'est vraiment exigeant là, de nous suivre.
Jimmy, l'organisme que tu chapeautes est Adapte ta vie. Parle-nous-en un petit peu. C'est Adapte ta vie travaille justement pour que les personnes en situation de handicap puissent bouger et faire du sport.
Effectivement. Okay. Moi, le tour du monde, c'est pour ramasser des fonds pour la construction du complexe Santé Adapte à vie, qui va être situé là, sur les terrains là, de Trudel, juste en face du Santé RDPQ, le Centre François Charon, là, anciennement. Il va avoir une place là, haute technologie pour eux autres, qui vont pouvoir aller s'entraîner, avoir des soins, puis... c'est assez important de pouvoir redonner au suivant. Aussi, il y a le spectre de l'autisme, les handicapés physiques et intellectuels. Quand j'ai mal, même si je suis en fauteuil roulant, je me dis, moi et ma femme, on roule pour une bonne cause, puis on fait vraiment la différence. Depuis 2015, La randonnée de Jimmy Pelletier a redonné 2,6 millions de dollars nets.
Exceptionnel.
C'est beaucoup de sous, puis on fait vraiment la différence. Je suis bien entouré. Mario Légaré, là, le directeur général d'Adaptavie, c'est vraiment une personne incroyable. Je pourrais dire qu'il travaille 24 heures sur 24, 13 jours sur 7. Lui, Adaptavie, c'est important pour que que toutes les personnes qui utilisent là, le service Adaptavie soient vraiment satisfaites. Puis présentement, là, on est bien contents. Le monde nous encourage. C'est sûr que c'est normal qu'on en veut plus. On veut que le monde nous suive plus aussi. Mais le voyage commence. Hein. Ça fait quand même juste 84 jours. Il reste encore un an, plus qu'un an et demi là, encore à rouler. Là.
Hey, c'est incroyable. C'est tellement une dévotion, autant d'années à faire ce défi-là. Puis, clairement, c'est parce que ça vous tient à cœur. Vous dites que ça change les choses. Au quotidien, là, qu'est-ce que ça change exactement? Vous avez quoi comme retombée humaine de ça? On vous raconte quoi? On vous dit quoi?
Mais moi personnellement, là, c'est depuis mon accident, il a fallu que je m'adapte. J'ai décidé de m'adapter dans ma nouvelle condition de vie. Parce que c'est pas évident. Tu es à 19 ans, tu es paralysé jusqu'en bas. Tu peux plus marcher. Moi, je suis un ancien joueur de hockey de haut niveau au baseball. C'est sûr que j'ai trouvé ça dur au début. Mais j'ai décidé de m'adapter puis aller de l'avant. Puis ça fait 29 ans que je suis en fauteuil roulant. Puis c'est à chaque jour qu'il faut que je m'adapte. À travers le monde, ici, présentement, tu sais, c'est pas évident. À chaque jour, on est dans nos valises. Il faut toujours pacter, dépacter. Puis c'est pas adapté. C'est presque pas adapté partout. Faut que je me fasse aider. Des fois, j'embarque, je me fais aider pour monter les escaliers. Puis ça, comment je pourrais bien dire ça? Faut que tu l'acceptes d'une certaine manière de pouvoir te faire aider parce que ça vient jouer sur l'orgueil assez souvent. Mm-hmm. Mais l'expérience que j'ai, c'est que je me dis, gars, Jimmy, là, c'est pas grave. Là. Tu sais, tu as juste besoin de l'aide un peu pour faire ton défi. Puis ma femme est toujours aux côtés de moi. Elle est toujours là pour m'aider.
Jimmy, il y a Philippe qui nous écrit « Wow, quel homme et quelle résilience » et je partage entièrement son opinion. Vis-tu encore parfois des petits moments de découragement quand même?
Ben, écoute, moi, je suis un gars très positif, mais j'en vis. Des fois, je vis des moments un petit peu plus difficiles, mais mon cerveau, il est fait que je me retourne très, très, très rapidement. Tu sais, aujourd'hui, là, on avait beaucoup, beaucoup de dénivelé. C'est sûr, quand tu montes, faisait 35 degrés aujourd'hui, gros soleil.
Aïe, aïe, aïe. Puis là, toi, t'es à la hauteur de l'asphalte, là, fait qu'il fait encore plus chaud, là.
C'est ça, je couchais à hauteur de l'asphalte. C'est sûr qu'à un moment donné, tu montes. Le cerveau, des fois, il t'envoie du négatif. Hein, j'essaie, je la retransforme, puis je me dis, gars, écoute, là, Jimmy, là, fais beau, t'es pas malade, t'es en santé, t'as ta femme, puis tu te dis, oh, ouais, go, on roule pour la cause. Ah. Puis,
la force mentale.
Jimmy, t'es un être exceptionnel, il n'y a pas de doute là-dessus, mon chum. Comment qu'on fait si on veut donner à la cause, justement, la randonnée de Jimmy Pelletier?
Oui, mais ce qui est important, nous autres, c'est qu'on vend des kilomètres. Parce que le monde peut nous encourager. Un kilomètre, c'est 10 $ via le site là, jimmypelletier.com. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Ça s'appelle Tour du monde, Jimmy Pelletier World Tour. Suivez-nous, abonnez-vous à nos pages, puis vous allez pouvoir nous suivre à chaque jour. Puis nous autres, après le... Là, présentement, il nous manque environ, il manque environ 3500 km avant d'arriver au Portugal. Par la suite, on s'en va en Australie, la Thaïlande, le Maroc. On retourne en Europe. On continue à faire le tour du monde.
Cool. Jimmy, on te suit dans ton parcours. On se fait une promesse de se reparler en ondes, c'est certain, durant ton périple de près de 2 ans. Et en passant, ta meilleure amie, Cyn, te félicite et te salue de tout cœur.
Bon, mais Colin est bien donc gentil. Hey, merci de nous suivre.
Ça fait plaisir.
Quand,
salut, Jimmy. Merci à toi. Salut beaucoup. Okay. Salut. Bye-bye. Quel homme exceptionnel, Pascal.
Moi, je trouve ça très impressionnant. Honnêtement, là, c'est des années de défis.
C'est fou.
Hey, c'est pas une histoire. Moi, je trouvais que c'était quelque chose, une semaine, là, à forcer son mental puis à rester focus. Il fait ça pendant
c'est quelque chose
semaines.
Aussi.
Lui, il fait ça pendant des années.
Ah, c'est fou.
Pour la bonne cause.
Ouais, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on lui parle en ondes cette semaine, parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est extraordinaire l'espoir qu'il donne aux jeunes qui vivent avec un handicap.
C'est surtout ça, parce que je sais pas si tu t'es posé la question, toi, dans ta vie, mais admettons que ça t'arrive, là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mm-hmm. Premièrement, qui s'occupe de toi?
Ben exactement.
Parce que tu n'es plus capable de te mouvoir comme tu veux. Deuxièmement, ben là, on pense aux financiers, on est-tu capable de subvenir à ces besoins-là? Ouais. Mais troisièmement, ton mental va être où? Parce que souvent, ça t'enlève plein de choses. Puis il y a tout le temps...
Oui.
Mettons qu'on va simplifier ça à deux catégories. Les gens qui, officiellement, il y en a qui se cachent là,
oui.
dans des CHSLD, qui ne parlent plus trop à leur famille, leurs amis, parce qu'ils trouvent que ce sont des
deviennent
poids.
Deviennent isolés.
Ils s'isolent. Parce
que tu as tellement raison. La crainte de devenir un poids
oui.
pour ton entourage.
Ben oui. Puis l'autre strate, c'est... Bon, on y va grossièrement là, avec la mm-hmm. catégorisation de deux catégories. Ces gens-là qui disent, bon, ben ça, c'est ma condition. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux pousser le tout le plus loin
fonce.
Possible? Je fonce, je m'en vais faire des défis, je ramasse des fonds pour ces gens-là hein? où il y a un petit peu plus de difficulté à accepter leur nouvelle mm-hmm. vie. Puis il dit, je fais de la déstigmatisation aussi autour
ouais.
de ça. Quelqu'un qui dit, hey, Colin, moi, je sais pas quoi faire avec ça. Je sens que j'ai perdu ma masculinité, par exemple, ou autre. Il les encourage, il travaille avec eux, puis va leur donner un autre souffle
ouais.
de vie. Je trouve ça fascinant.
Et ce qu'il est en train de faire, en plus, avec sa randonnée, c'est qu'il va permettre aux personnes qui vivent avec un handicap à Québec d'avoir les services à proximité.
Exact.
IRDPQ, centre sportif. Je sais très bien, il parle de places non adaptées pour les personnes à mobilité réduite en Europe, mais les Trudel, tout est adapté également avec Place Fleur-de-Lys, les nouveaux complexes. Alors vraiment, ces gens-là vont avoir un complexe à Québec entièrement dédié à eux, et ça, c'est extraordinaire.
On peut être fier. On peut vraiment être fier de ces gens-là qui se mobilisent, en fait, pour mmh. faire en sorte que si ça arrive à qui que ce soit,
vraiment.
Ben, ils soient pas laissés à eux-mêmes.
Oui. Pascal, tu sais, hier, tu me dis, voyons, Jeff, t'as donc ben l'air fâché après Carl Malenfant. Ben, je veux juste te faire écouter un petit extrait de la commission Galant ce matin.
Nous allons être là et vous supporter jusqu'au 18 décembre, entre guillemets, donc je comprend qu'elle attribue ses propos à SAP. Je leur ai dit que nous étions conscients qu'il s'agissait d'un investissement majeur de leur part. On peut le constater avec le nombre
c'est
de personnes impliquées. Montréal, USA, Toronto, etc. Et ainsi que leurs efforts dans les sessions préparatoires, les sessions additionnelles, par rapport à la demande initiale pour supporter nos questionnements et les frais afférents encourus.
C'est Loulou qui craquarde.
Il existe toutefois de leur part un fort scepticisme sur notre capacité à faire changer le processus d'acquisition de type appel d'offres, lowest bidder, qui serait probablement le plus bas soumissionnaire conforme, si on traduit, à cause du marché de Québec. Voilà, j'ai fait ma job de courroie de transmission informelle. Parce qu'on se, juste, on se met en contexte, là, l'objet du courriel, c'est, sans faire d'erreur, c'est par les voies non officielles, éléments de réflexion et sujets à partager. Et M. Malenfant, Mme Savoie ici vous écrit à votre adresse personnelle.
Oui, parce que... À votre adresse personnelle.
Hey, le titre de ce courriel-là dit tout à quel point c'est une réflexion ésotérique quasiment, tu sais, les voix non officielles. Il y avait tellement de choses dans ce témoignage-là.
Ah, c'est fou.
Je trouvais que j'avais l'impression d'écouter du théâtre d'été à
ouais.
l'île d'Orléans.
Oui, et ça, c'était ce matin, donc on voit qu'on amène l'entonnoir de plus en plus vers
oui.
Carl Malenfant. Et justement, ces pratiques très douteuses, on va s'en tenir à ça pour le moment. Suivez Gravel dans le retour avec Denis Audrey Véro. C'est sûr qu'on va vous parler des mises à jour là-dessus. Et nous, ben Pascal, on se reparle demain. Ça passe très vite, ce deux heures-là. C'était très plaisant, encore une fois.
Même chose demain, sans faute, à midi.
Exactement. Alors, c'était l'émission On en jase. Le retour de Gravel suit immédiatement. Restez à l'antenne et bonne journée, la gang.